bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 11 octobre 2014 et nous revoilà encore réunis pour l'enregistrement du 10e épisode de l'Entrepod. Aujourd'hui, autour de la table, je vais commencer par lui. Cette émission, c'est quasiment la sienne. Amateur de films fantastiques, élevé à la sauce Massacre à la tronçonneuse, Freddy les griffes de la nuit ou encore La nuit des morts vivants, il a fait des pieds et des mains pour que nous soyons encore réunis à seulement 14 jours du dernier enregistrement de l'Entrepod, chose qui est quasiment impossible vu nos agendas, c'est-à-dire très chargé. Femmes, enfants, chiens, chats, travail, musique, soirées diverses et variées, mais nous revoilà. Assis autour de la table à sa demande, j'ai nommé Lulu.
Bonjour.
Quand les enfants de son âge jouaient au Lego et regardaient la télé Dragon Ball Z, l'invité du jour avait déjà certainement sur ses étagères la filmographie complète d'Alien, de Predator et de tout ce qui pouvait avoir un lien sur des personnes décédées mais revenues à la vie pour se restaurer de vivants courant dans les rues dévastées par le jugement dernier. À 25 ans, il a déjà créé sa propre société, Phoenix Effet. Il est l'organisateur de la 6e édition du Festival Fantastique de Rouen. C'est une chance de l'avoir parmi nous pour parler de tous ses projets. J'ai nommé Alexandre Nicole.
Salut,
bonjour.
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 Avec une robe noire flottant dans l'air, les yeux semi-plissés, la coiffure ébouriffée, les ongles longs saillants, elle pourrait incarner une reine des ténèbres terrifiante et maléfique. Rien que du regard, elle serait capable de liquéfier n'importe quel chevalier venu la défier dans son antre de la terreur. Méfiez-vous quand elle parle, sa voix moitié humaine, moitié animale peut détruire n'importe quel tympan. J'ai nommé Didouille.
J'étais sûr que tu parlais de ma femme.
Dans la famille Adam, c'est le mieux.
J'ai pas le droit de dire bonsoir du coup.
Vas-y, vas-y, vas-y.
Bonsoir, bonsoir.
Vous avez vu la voix ? Dans la famille Adams, il aurait pu incarner un seul personnage. Dégarni du front, les yeux proéminents, cerclés de noir, la bouche rieuse et la tête rentrée dans les épaules. Avec son long manteau noir, il aurait pu incarner avec beaucoup de ressemblance l'oncle fétide. Il est sorti de cette famille, a retiré son long manteau ainsi que le noir autour de ses yeux, mais ne peut rien faire pour ses cheveux qui ont définitivement déserté la surface de son crâne. J'ai nommé Christophe.
Bonjour.
Dans une chaumière délabrée, au milieu de marécages brumeux et humides, poussez cette porte où nulle personne ne censée ne viendrait frapper. Là, sur quelques étagères, crânes et fioles de diverses couleurs fluorescentes attendent d'être assemblées dans le chaudron où, pour le moment, cette femme verrue sur le nez prépare une décoction plutôt rhum arrangé. Ok, on est dans un décor de sorcière, mais ne nous laissons pas abattre, aujourd'hui c'est la fête. J'ai nommé Starlette.
T'es vraiment un con.
J'ai rien compris. Voilà. Petite lunette ronde dont une branche ne tient plus que par un bout de sparadrap, l'œil riant, la blouse blanche tachée de sa salive dégoulinante, de sa bouche crispée, façon savant fou, une seringue 33 mm dans la main gauche, il aurait pu tenir le rôle d'Herbert West, le médecin de réanimateur. Il fait partie des gens qu'on n'arrive plus à se décoller de nos baskets, j'ai nommé Jean-Robert Frégin. Et enfin, lui, c'est forcément en créature de la nuit, craignant le soleil qu'il aurait été le mieux. Mince, long, le regard terrifiant, imaginez-le avec un costume noir impeccable, toujours prêt à vous accueillir dans son château au crépuscule pour la nuit, où, malheureusement, le goût du sang lui rendra son véritable visage, et quand ses canines doubleront de longueur, il sera déjà trop tard pour quitter cette pièce. C'est donc à toi, grand prêtre de la nuit, reprends les commandes de cette émission basée sur l'horreur et le frisson. J'ai nommé Nicolas Van Draculas.
Heureusement qu'il n'y a pas que les canines qui doublent de longueur.
Bon, faut qu'on fasse 4 minutes, c'est trop court encore.
Ou t'es trop long, je sais pas.
C'est toi qui ne sais pas mesurer, tu m'as dit 3 minutes, je fais 3 minutes. Hein.
Ah là là.
Non, mais tu aimes.
Vous rencontrerez tous les deux. Et puis... ouais, très belle introduction, mon cher Marius.
J'adore.
Comme d'habitude. Et donc, bienvenue dans ce nouvel numéro de l'Entrepod. De retour à la maison, hein, puisque la dernière fois, vous avez pu vous rendre compte que nous avons fait ça en extérieur à l'occasion du Festival Normandie Bulle. Donc, comme l'a déjà présenté Marius, aujourd'hui... T'es embêté, tu peux pas me répondre avec ta bouche pleine. Nous accueillons un nouvel invité, donc Alex Nicole, qui vient nous présenter, entre autres, le Festival du film fantastique de Rouen. Et que nous avons eu l'occasion de rencontrer justement à Normandie Bulle, puisque c'était notre voisin de stand. Donc on a pu forcément un petit peu le rencontrer et sympathiser avec lui. Il viendra nous expliquer un petit peu ce qu'il fait aussi au-delà de normes du festival, puisqu'il y a une actualité assez chargée, on a pu en discuter un petit peu en avant. Donc au sommaire de ce numéro, un petit retour sur les épisodes précédents. Ensuite, on attaquera avec la rubrique à braque au cours de laquelle on présente un focus sur certains sujets spécifiques. Donc là, on en a quelques-uns là, qui ont été retenus. On échangera donc avec notre invité sur son actualité ou ses actualités, nous verrons bien. Didou, il nous fera un petit sujet particulier pour nous aider à nous endormir moins bête.
Pas faux.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Donc, et Starlette aussi reprend ses tests. et nous fera partager le dernier en date.
Oui.
Non, je ne dis pas quoi. Je ne dis pas quoi. Nous pourrons profiter la surprise ou pas, on verra bien. Et puis ça sera le moment des coups de cœur et des coups de gueule de chacun en 60 secondes chrono. Mais bien entendu, Mister Lulu nous a préparé une surprise d'après-générique qui ravira les amateurs de création, dirons-nous, particulière. Je le hais déjà.
Et donc, moi aussi.
Tu l'as entendu?
Oui.
Déjà.
Ah, non, particulière, je ne sais pas si c'est le mot qui convient.
C'est particulier. Après, on met ce qu'on veut derrière cette...
Punaise, vous êtes tous au courant du truc.
Sauf
et puis
toi.
Là, voilà.
Ah, il n'y a que toi. Vous avez quoi de te sentir à la place de Marius, là, d'un coup?
Il n'y a que toi, Marius. C'est...
Je te rassure, j'ai écouté que 10 secondes parce qu'après c'est compliqué.
C'est insupportable.
Bon, enfin bref, ne teasons pas trop, on en a fait suffisamment. Et règlement de compte à OkFro. Mais je vous propose de partir directement sur le retour sur les épisodes précédents. Donc je vais commencer par quelques petits retours avant de passer la main à ceux qui ont envie de la prendre. Donc je voulais déjà commencer par... c'est une formule, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir en fait.
Oui, mais tu t'en es pas sorti en fait.
Non. Si vous aviez pari, je pense que ça serait passé comme une lettre à la poste, mais bon, c'est pas grave. Je voulais remercier le copain Bouli et Maud du Bidule qui nous ont encore plutôt bien encensé dans leur dernier épisode, notamment à l'occasion du retour sur Rock en scène. Donc c'est super sympa, à chaque fois ils nous font des retours dithyrambiques. Et puis j'en profite aussi pour faire un petit coucou amical à nos copains de Didgeridoo. On reviendra certainement dessus un peu plus différemment tout à l'heure, mais en tout cas là c'est l'occasion de vous remercier ceux qui commentent régulièrement et qui nous font part de leurs sentiments et de leurs retours. C'est vraiment sympa. Donc on a eu de nombreux commentaires, notamment aussi sur le dernier épisode, hein, forcément celui de Normandie Bulle. Il a quand même un accueil assez chaleureux, ça nous a quand même vachement plu, tant sur le fond avec les invités, parce qu'on a quand même eu des gens de qualité, c'était vraiment bien. Et sur la forme, parce que mine de rien, notre expérimentation en milieu hostile, c'est plutôt pas si mal déroulé que ça. Donc c'est plutôt sympa. On a pu progresser, je pense. On a tant dans la présentation et même dans notre façon d'aborder les invités, c'était une belle expérience. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais
Moi, je vous ai trouvé moins mauvais que d'habitude.
C'est exactement ce que je dis. C'est ça.
Non, c'était impressionnant.
C'était impressionnant. Oui. Okay. Oui, on fait un peu les malins, mais
on a fait. Oui.
Avant de commencer, on n'était pas tout à fait sûr de nous. Hein.
D'ailleurs, bon. On a pu le remarquer. Il y a très peu d'interventions.
Finalement, en fait, je pense qu'il était bien parce qu'on parlait pas beaucoup.
Oui, c'est ça. Ça. Pour une fois, j'ai fermé ma gueule.
Non, mais c'était vraiment sympa. Starlette, tu voulais peut-être rebondir un petit peu sur ce que nous avait dit Mathieu Collet de Lumière Doute.
Oui, quand... parce que on a parlé plusieurs fois en fait dans le podcast de Lock and Key. Yes. Mais vous avez été mauvais. J'avais pas envie de le lire avant. Bah alors lui, le fait qu'il dise que c'était la BD, qu'il fallait lire absolument, je l'ai lu. Je l'ai dévoré. J'ai dévoré les 6 tomes en 48 heures en fait.
À peu près. Oui.
J'ai trouvé ça fantastique. Voilà, je vais pas me réétendre dessus parce qu'on a déjà passé plusieurs
c'est pas
épisodes.
T'es au chômage ou t'es auto-entrepreneuse quelque chose, hein?
Elle est très entrepreneuse.
Et voilà, j'ai adoré.
Donc voilà. Et moi, de mon côté, donc pour approfondir un peu un sujet qu'on avait évoqué, je me suis procuré L'Artigue et Prévert de Benjamin Adam, que j'ai beaucoup aimé. Donc Benjamin Adam qui était venu à notre micro, l'un de nos premiers invités à Normandie Bulle.
Qui a reçu un prix aussi.
Et oui, justement. Donc Benjamin a reçu le prix du meilleur scénario pour L'Artigue et Prévert, justement. Alors L'Artigue et Prévert, en deux mots, c'est l'histoire de deux épiciers, trafiquants de tabac frontaliers, qui se retrouvent avec un cadavre sur les bras. Et on va dire qu'ils n'ont pas tout à fait la même façon d'apprécier la situation. Et il en découle pas mal de petites histoires. Et c'est vraiment intéressant. Alors le dessin peut être un peu déstabilisant, hein, si surtout après quelque chose comme Lock and Key ou quelque chose comme ça n'a rien à voir du tout, mais ça se prête complètement au scénario et à la mise en scène qu'il a vachement étudié. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien. Et puis dernier petit point que je voulais évoquer, c'est aussi on a parlé de Benjamin qui avait reçu un prix, mais un autre de nos invités a aussi eu un prix puisque Steve Baker a été récompensé à l'occasion de Normandie Bulle pour Inoxydable, le prix du meilleur dessin, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a quand même eu du bol en ayant ces deux personnes à notre
table. Toi, t'en as un dédicacé.
Et ouais,
un dessin.
Avec Freddy, on a une jolie dédicace de Steve sur notre Mais toi aussi, Christophe, tu as une dédicace de Benjamin.
Moi, j'ai une dédicace de Benjamin sur son superbe article sur les empreintes toxiques. Enfin, article, sur son super documentaire dessiné sur les empreintes toxiques et qui est vraiment excellent.
Tout à fait.
Via la revue dessinée, pardon.
Et puis, une autre rubrique qui a manifestement passionné les foules lors du dernier épisode, c'était l'espèce d'énergumène qui s'était pointé pour nous faire un retour sur l'épisode, enfin sur nos prestations de l'été, puisqu'on s'était fait un petit peu
un petit bilan
vu par quelqu'un d'extérieur, hein, parce qu'on était, c'est vrai qu'on était peut-être un petit peu autosuffisant, auto-satisfait, tout ça, etc.
Donc auto-congratulé.
Ça nous a fait du bien. Et puis bah ce JR Frégin, bah il remet le couvert aujourd'hui, puisqu'il est venu se greffer à notre table, dans notre salle à manger. Donc bah peut-être qu'on va on lui passe le micro ou pas?
Oh, je pense. Ouais.
Bon, allez.
Allez,
c'est parti.
Ah, on n'est pas rancunier, par contre.
Allez, JR, à vous.
Bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci de m'accueillir à nouveau. Alors,
c'est
avant tout.
Plaisir.
Partagez, n'en doutez pas. Avant tout, je dois vous avouer que pour avoir le droit de revenir tenir une chronique ce jour, j'ai dû faire quelques concessions et accepter une certaine forme de censure. Pas question de compromettre le retour de l'Anthropode à Darnétal l'an prochain pour la 20e édition du Festival de la Bande Dessinée. Un podcast d'amateurs, déontologie d'amateurs. Je dois donc concéder, certes sous la torture, que Darnétal est une des plus charmantes bourgades qu'il m'ait été donné de visiter. On m'a par ailleurs strictement interdit le moindre jeu de mots avec le patronyme de son maire, Christian Le Serre. Il a bien insisté d'ailleurs sur le plateau sur le fait qu'il fallait pas prononcer le F. Il s'agit certainement pour lui, et je puis le comprendre, d'éviter toute allusion au bois qui, s'ayant mieux à l'animal qu'à l'homme, se prête aux plus faciles railleries. Ayant décidé de ne pas sombrer dans la facilité, l'équipe a donc été, ce qui avouons-le confine à l'absurde, jusqu'à taire la réelle passion du premier personnage de la ville pour le théâtre, et plus particulièrement les pièces d'Eugène Labiche. En même temps, ils ont certainement eu raison. Hein. Lorsqu'ils ne goûtent pas la plaisanterie patronymique, on dit Monsieur Le Serre violent. Il fut fort intéressant de voir vivre l'émission de l'intérieur. Hein. Les auditeurs ignorent certainement que Madame Didouille a son propre garde du corps, qui ne la lâche pas d'une semelle. Certainement pas pour la protéger des assauts de Monsieur Lulu, qu'on sent distant, bien plus attiré par les adolescentes prépubères. tel un Kevin Spacey français dans Darnétal Beauty. Il leur fait miroiter les débuts de la gloire en leur proposant de figurer en une de sa publication, à tirage qu'il prétend illimité, la Gazette des Boules. Alors, premier invité, Chet Baker. Censé s'être défenestré à Amsterdam en 88, dans un hôtel tout près d'un canal, la police a toujours pensé qu'il avait, pour la première fois de sa vie, échoué à faire trompette. Force est de reconnaître qu'il avait plutôt bonne mine. Inoxydable, a même pensé Monsieur Lulu, ravi de rencontrer un zombie pour le festival du film fantastique. Ah non, ça c'est la prochaine fois. Monsieur Freddy corrige, il s'agit de Steve Baker, auteur de BD, régional de l'étape, qui remportera haut la main quelques heures plus tard le prix du dessin. Eh oui, marcher dans l'Anthropode, ça porte bonheur. Benjamin Adam, prix du scénario pour Zadig et Voltaire, peut également le certifier. Natif de Reims, où il a longtemps tenu un fanzine sur le champagne, intitulé La Gazette des Bulles, il est venu présenter le travail qu'il a réalisé à titre d'illustrateur pour la revue dessinée à propos des emprunts, dits toxiques, qui grèvent les comptes de nombreuses collectivités locales. Entretien fort intéressant, ma foi, qui a néanmoins suscité de la part de Jean-Édouard Criquilloche, le célèbre marin normand bien connu de l'Anthropode, un petit mail à notre attention. Celui-ci nous informe du fait qu'il a récemment édité, aux éditions À Voile et à Vapeur, un livre comptant ses plus belles expériences de navigation sur des mers extrêmement polluées par les hydrocarbures, pesticides et autres substances chimiques diverses, avec des vagues de plus de 6 mètres de haut qui venaient fouetter son navire pour finir en fines gouttelettes sur son visage sévèrement buriné. Oui, Madame Starlet, j'ai bien dit buriné. Le titre de cet ouvrage, Les embruns toxiques. Le troisième invité est Panique à bord. On serait cru sur le bateau de Jean-Édouard Criquilloche quand le vent se lève. Michel Cardoz est en approche et s'invite à la table. Tous les chroniqueurs sortent leur iPhone pour consulter Wikipédia. On est journaliste ou on ne l'est pas. Et savoir quel peut être le rapport entre le truculent présentateur de la météo de la fin des années 80 et le 9e art. En attendant, faute de débit et pour combler le vide abyssal de la conversation, Mister Lulu commence à lui parler de la pluie et du beau temps. En toute modestie, c'est moi qui ai permis à l'équipe de l'entrepôt de sauver les meubles. Ce que j'avais déjà fait pour l'équipe de l'entrepôt un jour d'inondation. En soufflant à l'oreille de Monsieur Freddy qu'il s'agissait en fait d'Yves Frémion, éminent critique, écrivain, homme politique. En grand professionnel qu'il est, Yves Frémion a bien vu le flottement. Il confiera d'ailleurs un peu plus tard, fort désabusé à qui veut l'entendre, que, je cite, « l'amateurisme poussé à ce degré-là, ça en devient du professionnalisme ». Je n'avais pas de mérite à savoir qui il était. Il s'avère que je l'ai bien connu dans les années 60. À l'époque, son fanzine et le mien étaient en concurrence. Le petit Mickey qui n'a pas peur des gros visait clairement mon surpoids. Et c'était assez inélégant de sa part. Tout comme l'était le fait de faire mine de ne pas me reconnaître, alors même que j'étais juste à sa gauche sur le plateau de l'émission. Mais enfin, je n'ai pas insisté, il faut bien t'avouer que la réussite m'a moins souri qu'à lui. Car Yves nous a confié hors micro qu'il avait eu, entre autres, le privilège d'interviewer Philippe K. Dick. Certes, moi, Monsieur Frémion, si je n'ai pas eu cette chance, j'ai toutefois interviewé sa femme, qui avait un regard troublant. La belle de K. Dick avait des yeux de velours. Et puis plus tard, j'ai même interviewé Philippe K. Dock, moins connu, mais créateur des chèques cadeaux du même nom. Et j'ai même failli avoir un entretien avec Philippe K. Duc, mais qui a été finalement annulé. Alors en même temps, ce qui me console, c'est que Christian Le Serre n'a pas connu plus de succès avec Bambi, son fanzine de l'époque. Mais chut. Autre invité, Guillaume David, peintre qui dessine notamment des portraits de Tintin littéralement défigurés et une série de peintures de cimetière intitulée « Mourir dans le gare ». Et sous-titré, mais nous n'avons pas pu le dire, c'est toujours mieux que vivre à Darnétal. À mon avis, ce n'est pas par hasard si Christophe et Guillaume partageaient dans leur jeunesse une passion commune pour la musique de Carlos. Le terroriste, hein, pas le chanteur. Quand Mister Lulu lui a avoué sa passion pour les nus qu'il peint par ailleurs et lui a demandé les coordonnées de ses modèles, Guillaume lui indiquait qu'il s'agissait en fait de statues antiques. Mister Lulu lui a répondu qu'il était malgré tout preneur et qu'en tout état de cause, ça le changerait de sa femme en toc. Un autre invité, David, promeut avec succès le jeu vidéo sur le salon avec de vieilles consoles pour joueurs nostalgiques. C'est bien connu, dans le canchon tout est bon et on se lève tous pour manette. Et il s'est clairement inspiré des hystériques mesdames Didouille et Starlet qui ont coutume de faire la même chose dans les salons de l'érotisme avec des vibromasseurs de collection. L'ultime rencontre, un libraire spécialisé qui a su nous transmettre sa passion de la joaillerie, des articles de sport et finalement de la BD. Aurait-il été invité s'il avait pu atteindre son objectif premier, à savoir gérer le H&M de la place de la cathédrale ? C'est un peu comme si j'apprenais que Monsieur Rêve était autrefois concessionnaire automobile et qu'il avait trouvé le nom de sa boutique, le Rêve de l'Escalier, après avoir signé un accord de partenariat avec les Montescaliers Secma. Je plaisante, c'est sans nul doute un véritable connaisseur. Il a en toute indépendance vanté les mérites du nouvel ouvrage de Fred Duval, scénariste du Cru qui fait des dédicaces dans sa boutique, et d'une bande dessinée dont il portait le t-shirt. Le titre étant presque aussi lisible que celui de son petit éditeur indépendant, Casperment de mémoire. Quoi qu'il en soit, il a bien résumé les difficultés rencontrées par les jeunes entrepreneurs pour s'installer. Les banques sont frileuses et ils doivent aussi faire avec le poids des charges diverses et variées. En substance, nous dira-t-il, chez EDF, la lumière coûte. Allez, je m'en vais de ce pas boucler le premier numéro d'un nouveau fanzine, la Gazette débile. Bravo à Nico d'avoir trouvé le moyen de m'obliger à qualifier par avance cette émission de fantastique. Mesdames Starlet et Ditouille, souffrez que, tel le Godemichet de l'humour que je suis, je me retire. J'espère que vous avez félicité votre invité pour vos impressionnants maquillages. Alexandre Nicole, c'est vous ?
Oui, c'est moi.
Enchanté. Restez sur vos gardes. Ce n'est certainement pas à vous que j'apprendrai le sort funeste réservé au personnage de Jeff Goldblum dans La Mouche, à qui il coûta cher de finir entre pods.
Bravo.
J.R.
J.R. a encore frappé.
Ah, J.R.
Ah, il arrive toujours quand on s'y attend.
Frappe fort, J.R.
Ah là 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 là.
Mais je pense que ça va nous coller à la peau quand même, hein, cette histoire de...
d'attester pour vous le
mais
salon de l'érotisme.
C'est ce que je suis en train de me noter là, mais ça fait un an, vous aviez pas prévu d'y retourner.
Il y a la deuxième édition, enfin la prochaine édition là en novembre.
Je suis allée au Parc Expo, ouais.
Pour aller voir ce qui se passait.
Non, hier au salon Maison Déco, et il y avait tout programme de l'année, et ça n'a pas réussi. Je pense que c'est annulé.
Ah ben ça a déçu, hein. Si vous aviez écouté l'émission, on était déçus, nous.
On fait et on défait des carrières.
C'est ça.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas les 4 par 3 partout. Il n'y a pas les 4 par 3 cette année hyper
aguicheurs,
on va dire. Mais bon. Eh bien, écoutez, on verra si jamais il y a le salon de l'érotisme. Mais en tout cas, je crois que ça avait marqué notre JR national. Hein, mais bon. Eh bien, sans transition aucune, nous allons continuer avec la rubrique Abrac que Christophe va lancer immédiatement. Et ben pour cette rubrique à Brac, c'est la parole à Christophe, à notre fétide. Christophe.
Fétide.
Tu connais pas l'oncle fétide, Fester?
Si si, je le connais. Fester. Mais j'avais pas gardé en mémoire. L'intro de Marius.
Ah, ça, voilà, ça sert bien à quelque chose que tu te casses le cul. Hein.
C'est
bien.
C'est pas le genre de choses que je retiens.
Bref, tu veux nous parler de quelque chose de plus
gay? Ouais, ça va être dur après Monsieur JR. Non, pas forcément plus gay.
Non, je m'attendais pas à grand chose.
Vas-y, Christophe. J'ai souhaité vous parler d'une BD. Ah. Étonnant, non?
Étonnant. Aïe, laquelle est-ce? Mais qu'est-ce à dire?
Et cet album, en fait, une fois n'est pas coutume, c'est une perle chinoise. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en général, les produits chinois sont souvent...
De la merde.
De la merde, ou copiés ou contrefaits. Et ben,
à nos amis chinois qui nous écoutaient, moi je cautionne pas du tout cette phrase.
Et ben, pour le coup, justement, là j'ai trouvé un album puissant, comme un uppercut en pleine face.
Wow. T'aimes bien uppercut, à chaque fois que t'aimes bien un livre, tu dis un uppercut.
Ouais.
Faut
uppercut.
Que ça le frappe, je pense.
Parce, que ça frappe...
Ouais, c'est ça en fait, il cache son jeu.
Ça, ça frappe à la fois les esprits et aussi les esprits.
Et le cœur et l'âme.
Voilà. Alors l'histoire de cette BD. Trois jeunes musiciens, la vingtaine, ont un groupe de rock et donnent des concerts dans des festivals où la foule les acclame. Ils sont un petit peu la nouvelle jeunesse chinoise face à la nouvelle liberté de la Chine post-Mao. Puis le temps passe, on les retrouve 10 ans plus tard, leurs rêves se sont envolés et ils sont alors plongés dans le quotidien de jeunes adultes trentenaires dans un pays en pleine mutation. L'auteur Liu Ming, brillantissime, excusez-moi pour l'accent chinois
De Rouen.
De cet auteur.
Ça doit être ça.
Bah, Liu Ming. Lu comme les petits Lu, en fait, hein, de la marque. Ming.
Comme la base Ming.
Ming, voilà. comme les avions russes.
Mig ou Ming?
Ming.
Ah, comme l'empereur Ming.
C'est comme
l'empereur Ming de Flash Gordon.
Ah, bah voilà.
Ouais, c'est ce que.
Voilà.
J'avais pas de référence, moi.
Donc, comme la dynastie Ming des vases Ming.
C'est ça. Il faudra lui demander s'il fait partie de la descendance. Ah, voilà. En tout cas, brillantissime jeune auteur pékinois nous parle du mal-être des jeunes chinois nés dans les années de la libération.
Je te laisse pas démonter.
Non, mais... Plongés dans un monde sans repères, ces jeunes goûtent à la nouvelle liberté toujours très encadrée dans une Chine livrée à la folie du business. Une dénonciation argumentée des tares de cette société cruelle. L'argent et la modernité, mais aussi les méthodes crapuleuses d'un régime autoritaire. Car la fin de cette BD...
Ah non, elle se paye pas, hein.
...est terrifiante. Liu Ming, je vais faire passer la BD pour illustrer ce que
je suis en train de raconter. En tout cas, la couverture est magnifique. J'ai pas vu le reste, mais...
Le dessin, le portrait...
Liu Ming a un sens du cadrage inouï. Un découpage très étonnant.
Tu peux le mettre au micro pour que les auditeurs puissent voir, s'il te plaît?
Ouais, voilà, c'est fait, regardez. Son récit est aéré, distant, en marge des canons de la BD franco-belge, pardon, et surtout, son dessin est simplement somptueux. Il utilise souvent de larges cases, d'une finition réaliste extrême, des gros plans sur les visages ou de larges scènes urbaines et lyriques. Beaucoup de cases utilisent une pleine largeur de planches, voire des pleines pages, voire des doubles pages. Ce récit est fort, touchant, servi par un dessin que je trouve d'une virtuosité rare.
En noir et blanc, hein, plus. Hein.
Tout est en noir et blanc, fruit d'un travail de plusieurs années quand même.
J'imagine, oui.
Art de Mélodie est une pépite graphique. aux éditions Mosquito. Je vous le conseille. Luming, Hard Melody, c'est magnifique. Le seul petit regret, peut-être, c'est que l'histoire est très très courte. Mais bon, voilà, ça n'empêche que c'est vraiment.
Il n'y a pas beaucoup de texte en fait.
C'est ça, c'est ce que je regardais. Il n'y a pas tellement de texte. C'est beaucoup. Tout est expressif dans le dessin en fait.
C'est ça. Très aéré. Des
par
cadres.
Par contre, quand il y en a, il y en a.
Il y a des planches
magnifiques. Hein. D'un coup, tac, il y en a beaucoup. Mais c'est. Non, c'est. Ça fait quand même une cinquantaine de pages, non?
Là, oui, oui, mais comme il n'y a pas beaucoup de.
Pour trois quarts
de texte. Ouais, c'est ça. En une heure, c'est bâclé. Enfin, c'est bouclé, pardon.
En une heure, c'est torché.
Mais, ouais, tu repasses un mais peu en fait, mais en fait, pour qui aime ce genre de dessin, on s'y attarde des heures et des heures parce qu'il y a un réalisme, un détail. Enfin, c'est hallucinant.
Je connaissais pas du tout Mosquito comme maison d'édition d'ailleurs.
Pourtant,
elle est spécialisée dans ces
types-là.
Non,
je crois pas. Je connais pas non plus. Je suis pas un spécialiste de cette maison d'édition, mais je pense qu'il c'est une maison d'édition qui sort des.
Des sentiers battus.
Non, c'est pas ça qui essaye de trouver des jeunes talents en fait.
D'accord.
Après, ces gens-là vont se retrouver. ces gens-là vont se retrouver chez Casterman.
C'est des découvreurs
Delcourt,
en fait. Voilà,
c'est des découvreurs, je pense.
D'accord.
Enfin, je dis ça en fait, j'en sais rien.
Non, mais en tout cas, c'est. Mais j'ai envie de creuser un peu parce que.
Mais lisez-le, achetez-le, c'est vraiment magnifique.
Et donc, Looming, il est scénariste et dessinateur.
Oui,
de
il
cette
fait les deux.
Œuvre. D'accord.
Ça s'appelle Hard Melody.
Hard Melody, ben on mettra le lien sur le billet pour ceux qui ont envie de creuser un peu plus et puis d'avoir les références précises de Looming.
Moi je dis Lu.
Lu Ming, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas japonophone.
En anglais on dirait Lu.
Ok.
Mais en chinois je ne sais pas si le U on le prononce ou.
En chinois on dit Wo.
Looming.
Looming. Pardon. Ça voulait dire, je passe la main ensuite sur ces belles paroles.
À qui veut la main prendre?
À Starlette. Non, là, je savais. À Starlette, qui a un sujet à nous présenter dans sa rubrique à braque. Starlette, c'est à toi.
Oui, donc tout à l'heure, tu as parlé des amis de Didgeridoo. Donc hier, on a été gentiment invités à faire le quiz dans leur podcast. On a passé un super moment. Enfin, moi, je ne connaissais pas trop. Moi, vous savez, je suis un peu toujours en dehors de tout ça. Puis là, je me suis prêtée au jeu. Vraiment, c'était très, très, très sympa. Et j'ai eu l'occasion... Je profite quand même pour dire que j'ai vu le fan de Didouille. Et je suis très jalouse. Il a l'air très sympathique. Et donc, moi aussi, je veux un fan. Voilà. L'appel est lancé.
Moi aussi, je suis jalouse. J'aimerais avoir des fans de Didgeridoo.
Mais je veux un fan comme Ringo. Je veux le même. Il est trop bien.
Ringo, j'aime beaucoup comme prénom.
En plus, il avait fait un quiz sur Sébastien Loeb. Moi, c'est trop
bien. Il a su toucher Didouille au cœur. Il parle de bagnole. Ça y est, direct, c'était parti.
C'était trop bien.
Moi, il m'en faut un qui me parle de cookies et de macarons. En fait. L'appel est lancé.
Bref, donc, de toute façon, vous allez pouvoir entendre cette prestation prochainement.
Oui. Alors, et donc, en fin de quiz, j'ai eu l'occasion aussi de découvrir les talents cachés de certains des animateurs de ce podcast, parce qu'ils sont musiciens. Et donc, certains d'entre eux, donc pour ne pas les citer, Max et Kousbou, ont fait un cover qu'ils nous ont fait découvrir en avant-première, donc hier soir, d'un groupe français. Que je vais vous laisser découvrir. Donc j'ai carrément adoré. Le morceau a été complètement réarrangé. On ne reconnaît qu'au moment de l'intervention du texte en fait, mais c'est vraiment complètement
super classe. C'est excellent.
Le morceau s'appelle Cadeau.
Oui. Le morceau s'appelle Cadeau. Donc je voulais vous le faire partager.
Ah non, mais faut que tu dises aussi pourquoi Starlette c'est Cadeau.
Non,
je dis pas.
Non.
Bah si, on a gagné contre eux quand même. On leur a mis,
voilà, on a gagné.
Grave la misère.
On a gagné. Donc
il fallait laisser aux auditeurs un peu la surprise d'écouter le truc, mais bon, c'est pas grave.
Ah merde.
C'est un peu pour ça qu'on voulait que tu te taises. Mais c'est pas grave. On coupera au montage.
On a perdu.
Bref. Et donc ils nous ont fait écouter leur reprise et je vais vous la laisser découvrir. On va voir si vous reconnaissez ce morceau.
Oh putain!
Ah, trop fort! Ça ne parle pas du tout!
C'est génial!
Écoute!
Fort!
Ah, c'est balèze.
Wild Palms Motel, pearly blood smear on curly blonde hair, a lifetime of regret by the blow shot in the still night at the wild, at the Wild Palms Motel, at the wild.
C'est vraiment bien, franchement. Ouais.
Once upon a time, at the One Palms Motel.
Ah, c'est simplement formidable.
Stranger than the moon coming from nowhere. Once upon a time, at the One Palms Motel. Every smoke would make you feel so dizzy and get wet all at all. A charming place to get. Lifetime of regret by the blow shot in the dead of night at the Wild Palms Motel.
Ah, c'est un peu fort.
C'est un peu fort.
Donc pour les non-initiés qui n'ont pas été intoxiqués par nos précédents épisodes et par notre notre forçage Kenkyu en permanence, donc c'est une reprise de notre premier album donc du groupe Kenkyu. Ils nous ont fait la gentillesse de le reprendre, mais vraiment d'une façon, moi j'ai adoré.
Et sincèrement, c'est presque c'est... mieux que l'original.
Mais oui, mais c'est vrai en plus.
Franchement, je suis épaté, moi.
Ah, moi
je suis sur le cul.
Les arrangements sont vraiment excellents.
Ah ouais, c'est...
Et puis t'as vu les harmonies.
Il ouais. Faudrait, faudrait leur proposer énorme. De le mettre sur le prochain album. Ou quoi.
Enfin, on leur vende les droits. Carrément, enfin, on leur vende les droits, on va prendre un peu de fric. En fait. Enfin, ça y est, c'est
non, vraiment, c'est vrai qu'ils ont pas demandé pour l'adapter, en fait. Hein.
Vraiment, bravo, bravo les gars, c'est formidable. Franchement. Ouais, moi je suis bluffé.
Ouais. Merci Edith Jury.
Ah ouais, merci.
Non seulement on a passé un bon moment
et bravo.
Et ils nous ont fait écouter ça, c'était juste excellent. Je suis donc, bluffé.
Et donc l'épisode aussi, devrait être en ligne prochainement. Leur épisode là, ils ont passé la journée à le monter et donc ça devrait être bientôt. Mais nous on a passé 3 heures facilement à enregistrer ça. Et bah, faut quand même reconnaître aussi que ça fait partie de nos fidèles auditeurs, au moins pour Kouzbou. Il a initié un peu les autres. Mais qui nous font régulièrement des retours, souvent très constructifs en plus. Moi, j'avais déjà eu la chance de participer à un de leurs épisodes il y a quelques mois. Mais là, c'est vrai que d'être tous ensemble et d'enregistrer en direct pendant quelques heures avec les loustiques de Marseille et des environs, c'était sympa.
De Narbonne.
Et de Narbonne. Donc voilà. Restez connectés sur Didgeridoo. C'est vraiment des gens
très sympas. Vous avez vu le clavier, les gars? Fais attention au clavier.
On va l'avoir.
Ah ouais, non, mais j'ai...
Le clavier, c'est le piano du fils de Kouzbou.
Oui, c'est un, c'est un piano d'enfant.
Ouais, mais c'est, franchement, c'est bienvenu.
Et le morceau, oui, il sera disponible. Vous en faites ce que vous voulez, les Kenkyu après.
C'est moi, je suis très impressionné. Et je serais d'avis de le mettre sur le prochain album. Remix.
C'est vrai, en plus.
Et du coup, bah, comme hier, bon, maintenant que Didouille a vendu la mèche, on les a explosés.
Je sais pas.
Donc, on fera certainement un match retour, ils nous ont insisté, ils ont souhaité qu'on se refasse une petite session, peut-être même tous autour de la table.
Ils ont pas trop insisté, hein, on trouvait ça, on s'est tellement bien fondu la gueule.
Donc voilà, en tout cas, on va pas s'éterniser non plus des heures, mais.
Ah, bah si, on a passé un super moment.
Il mérite qu'on parle d'eux.
Elle parle fort, hein. C'est pas moi qui ai dit.
Et Ringo, si tu veux changer d'idole, je suis dispo.
Il y avait
Marie. Marius.
Oui, je veux bien.
Are you ready?
Are you ready as a butterfly?
Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de papillon, mais j'avais envie.
De quoi?
Fais péter.
Fais péter.
Il a dit le papillon est prêt.
Le papillon a pété, je sais pas, j'ai rien.
Je m'en prie.
Ah. Non, c'est une photo, non.
Marius a partagé une photo sur Google. Donc, alors, donc, comme nous sommes dans une émission qui traite des films fantastiques et des effets spéciaux liés à notre invité, ben moi je suis tombé sur un film très spécial, sans grands effets spéciaux, mais qui m'a complètement retourné. Alors, c'est là où je vais avoir besoin de Didouille. C'est un film de Julian Roman Paulsler. D'après l'œuvre de Marlène Aushofer,
chauffeur de taxi ou chauffeur de bus,
avec la merveilleuse Martina Gedeck, sur une musique du jeune JSB, plus connu sous le nom de Jean-Sébastien Bach, qui est joué en ce moment par Julia Fischer. Donc en fait, c'est vraiment un film avec d'énormes effets spéciaux. Et là, je me tourne vers notre invité. Hein. C'est le mur invisible. Donc c'est l'histoire d'une femme qui se retrouve prisonnière dans une vallée autrichienne d'un mur invisible. C'est les seuls effets spéciaux.
Ah, il est passé sur Arte.
Il vient de passer sur Arte. Ah, tu l'as vu ?
J'ai l'ai raté. Je voulais absolument le voir.
Il passe encore pendant deux jours.
Mais en effet spéciaux, c'est super dur de faire un mur invisible.
C'est très très dur. Le jeu de l'actrice est formidable. Donc quasi seul au monde dans son chalet, accompagné seulement de son chien Lynx. Et de quelques hectares de montagne, elle va être confrontée à la solitude et au retour à la vie simple sur les 4 saisons que compte le film. Là où le film prend toute son ampleur, c'est sur le jeu principal de l'actrice Martina Gedeck. Je suis tombé dingue.
Elle est belle.
Elle est belle.
Elle est pas spécialement belle, mais elle est gentille. Qui fait une véritable performance donc dans son rôle quasi sans parole, mais qui nous prend au trip tellement la force de son personnage est fort. C'est simple, c'est les plans d'une femme attablée avec son chien à ses pieds, des silences.
Ça a pas l'air
avec son chien.
Non, ça a pas l'air un peu chiant.
C'est pas un peu chiant.
Non, tu vends mal, Marius.
Ah mais non, je le vends pas.
Mais non, il le vend bien.
Le plan d'une femme attablée avec son chien.
C'est tellement.
Qui dit rien.
Non, c'est un film réel.
Elle parle même pas à son chien, elle pourrait en même temps.
Il est vraiment top.
Te laisse pas manger.
Moi j'ai adoré. Donc voilà, il y a des plans qui sont simplement énormes, et puis vous vous faites happer par cette aventure qui est narrée, c'est que de la narration, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de dialogues.
En même temps, elle est seule, c'est vrai que ça limite les dialogues.
Et c'est dit avec beaucoup de poésie, moi ça m'a fait regarder le film une deuxième fois le lendemain matin dans mon lit tout seul.
Ah quand même.
C'était en version originale. C'était vraiment joli alors. C'était en version originale sous-titrée.
Non, version française, mais narrée.
Quand tu dis que tu as voulu la regarder...
Tu peux répondre à ta femme, ok ?
Oui, vas-y, finis. Après tu répondras à la mienne.
Donc narrée par Martin. Martina Gedeck en français en fait. D'accord. Elle est autrichienne mais elle narre le film en français en version originale.
Et donc tu t'es masturbé quoi.
Je voulais savoir pourquoi tu avais regardé en fait le film dans ton lit le lendemain matin sans ta femme. C'est ma question. De façon plus élégante.
Ouais, la mienne est un peu crue mais on se rejoint.
Non, c'est parce que j'ai été touché par ce film. J'ai eu aucune réaction.
Seulement par le film,
t'as été touché pendant le film ou quoi ? J'ai pas tout suivi moi.
Non, vraiment un film super fort. Ça a été tourné sur 14 mois. Donc 14 mois glissants dans une année, donc qui rend compte de
glissant 14 mois glissants,
une année de 14 mois.
Mais qui t'a touché ?
Mais donc on a toutes les saisons qui se suivent, forcément.
Et ne se ressemblent pas.
Et l'actrice, c'est.
On a compris, ouais, t'aimais bien. Ouais.
Isolée, non, assez isolée aussi pendant le tournage. En fait, elle avait vraiment un chalet toute seule ou assez isolée complètement pour essayer de coller au mieux dans le personnage.
C'est un chat ou un chien qu'elle a ?
C'est un chien.
D'accord.
C'est quoi comme chien ?
Et le chien, il joue bien. Non, mais je vous assure.
C'est quoi comme chien ? C'est un pékinois ?
Non, c'est un chien de chasse autrichien. Il fait. Non, mais moi j'ai eu du mal à faire le chien autrichien qui aboie. Donc, faut aller voir.
Hunt.
Encore deux jours, je viens de regarder, on est à l'enregistrement ce soir, donc le 11.
Samedi 11.
Encore deux jours, faut essayer de voir. C'est un film qui est vraiment énorme. Il y a eu des commentaires qui sont énormes. Il a reçu plusieurs prix au Festival de Berlin. C'est énorme. Simplement, moi je suis tombé. Ouais. Mais pas l'ours, le.
C'est un ours à Berlin.
Oui, mais
Berlin.
Il a eu le prix de je sais plus quoi.
La musaraigne.
Du chien. Il a eu le prix du chien.
Donc non, moi du coup j'ai téléchargé l'album également de Julia Fischer là qui est c'est phénoménal. J'étais pas fan de.
3 ans, hein, Martina Gedeck.
Ah ouais, mais c'est top. Hein. C'est top. À voir. Voilà, écoute, moi je conseille à voir.
Donc tu rappelles le mur invisible.
Le mur invisible.
De qui est-ce qu'il a. Tu sais
c'est
ça.
Julian Roman Paulsher et c'est d'après l'œuvre de Marlène Aushofer.
Et tu peux rappeler les dates de tournée de Jean-Sébastien Bach. Enfin, je suppose qu'il y a une actualité.
Je vais te le dire correctement en allemand.
Non, mais si, j'ai dû bien le dire normalement. Aushofer.
C'est
vu, non
c'est, là. C'est avec l'accent normand quand même là. Mais bon.
Attends, parce que c'est Marius qui a écrit donc.
Paulsler,
c'est ça
Paulsler. Et Marlène Aushofer.
Aushofer.
Haushofer. Haushofer. Das Hof, c'est le toit. Et Haushofer. Hofer, c'est.
Voilà. La mais tout à l'heure, vous aurez le droit à un cours de québécois.
Je crois que ça veut dire. À vérifier, mais. C'est celui qui.
Toi qui viens dans le lointain, c'est ça, non?
L'entrepôt des.
Le couvreur, exactement.
Exactement.
Haushofer, oui.
House.
Bah oui.
Das Hof, c'est le toit. House, maison. Hofer.
Donc c'est Marlène la couvreuse.
C'est ça.
Ben je vais lire le livre d'ailleurs.
Ah oui, ça t'a.
Ouais.
Deux fois le film, bouquin. En allemand ou pas?
Ouais, version originale allemand, je suis capable.
Version
non censurée, très bien.
Voilà. Bah, merci, Marie. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de le voir.
Moi
quand
aussi.
Même. Sans déconner.
C'est vrai.
Oui. Tu vois, on est sympa avec toi.
Voilà.
Non, mais je pensais que. Je pensais que Christophe l'aurait vu parce qu'on a un peu les mêmes goûts.
Sincèrement, je voulais absolument le voir. J'avais lu la critique de mon hebdo.
Télérama, pour pas le citer.
Et ça m'a vraiment donné envie de le voir. Et puis, je sais pas ce que j'ai foutu. Je l'ai loupé.
Moi, je l'ai pas vu. Il est encore sur Arte Plus 7.
Ouais. Après, on était deux à le voir. Il y avait ma femme également. Moi, j'ai accroché comme un malade. Et elle a complètement décroché. Elle a pas aimé. Elle est partie avec le cafard.
Le cafard
est décédé depuis.
C'est pour ça que tu l'as regardé seul dans ton lit le lendemain matin. Je comprends mieux.
Non, elle a pas du tout accroché.
Avec le cafard.
Alors que moi, avec le cafard.
J'ai regardé avec le cafard.
Il restait plus que le cafard.
D'ailleurs, il a pris cher le cafard.
Et donc le mur invisible de gens avec des noms allemands.
Voilà.
Ok. C'est moi j'ai pas retenu les noms.
Mais c'est Haushofer.
Arte plus 7.
Haushofer.
Pour ma part, moi je voulais faire un petit retour, un petit actu là rapide sur. Alors Freddy n'est pas là, c'est dommage, mais je pense que ça l'aurait bien fait rigoler. Puisque ce week-end à Forges-les-Eaux, donc la ville dont nous sommes originaires avec Freddy, se déroulait le festival Animageek. Donc, qui est la première édition d'un festival manga, culture geek, jeux vidéo et comics organisé dans ma bonne vieille ville de Forges-les-Eaux.
Oh bah dis donc.
Donc, je ne pouvais pas y aller. Et par contre, mon pote qui m'a conseillé d'aller voir ça m'a dit surtout, ce soir, il y a le concert Goldarock.
Goldarock.
Avec Bernard Minet.
Oh la
qui
vache.
Va interpréter les. Avec un
Goldarock.
Exactement.
Goldarock.
C'est ce soir.
Oh merde! Putain, qu'est-ce que je fous là?
Exactement. Bernard Minet, qui va interpréter les meilleurs titres avec un concert rock des meilleurs génériques des films des années 80, des dessins animés des années 80.
Oui, d'enfer,
par rock.
Donc, version rock, il doit les interpréter.
Ouais, ça peut être marrant.
C'est Goldarock, Goldarock.
Mais ça peut être assez marrant, finalement. Et puis, avec un côté nostalgique, avec les trucs rétro-gaming. Il y a pas mal de trucs rétro-gaming, du cosplay, des karaokés, des jeux vidéo, des libraires, certains libraires de romans qui participent, etc. Donc, je me dis, pour l'année prochaine, peut-être ça pourrait être marrant.
Alex, tu n'es pas là-bas.
Tu
n'y es pas, toi.
Tu n'as pas entendu parler.
Ouais, non, mais je crois que.
Bah, donc,
je crois que Bernard Minet était mort, en fait.
Mais non, c'est Rémi des Musclés.
C'est Patrick Simpson Jones.
C'est lequel, je sais plus.
Non, c'est Corbier.
Non, Corbier, il est toujours vivant.
Il est vivant, Corbier, c'est un pote de Freddy.
Pas en plus.
Et il n'a jamais fait partie des Musclés.
Non, c'était pas pitié pour les
gens. C'était le club de Dorothée.
C'est Bernard.
Les mille pales.
Les framboisiers.
C'est Bernard Ménez qui est mort.
Bernard Ménez non plus.
Non, il n'est pas mort.
Non, Bernard Ménez, non. En plus, j'ai zappé la semaine dernière, il était chez Patrick
Ménez,
Sébastien.
Bernard Ménez est ici, c'est moi.
Par contre, tu sais chanter jolie poupée.
Repris par François Damien, c'est excellent.
Ça. Ludo essaye d'en placer une.
Mais... Par contre, Philippe Nicolique des Tubi Free, je vous confirme, lui, il est bien mort. En fait.
Oh, quelle tristesse pour nous rappeler un truc comme
et
ça.
Et Grégory Lemarchal aussi, je suis désolé.
Oh, mais arrête.
Zut alors.
C'est vraiment dommage.
C'est salaud.
J'aurais pu faire un duo.
Donc, cela étant, voilà, c'était plus pour le clin d'œil. Je trouvais marrant que ma petite ville de 3000 habitants organise un festival.
Il y a quand même un Club Med.
De ce type-là. Il n'y a plus de Club Med. Le Club Med a déserté Forges-les-Eaux.
C'est Forges-les-Eaux.
D'ailleurs, la semaine dernière, il y avait la grande foire à tout de Forges-les-Eaux où je faisais des frites et des saucisses.
C'est pas vrai. C'est vrai, c'était à Forges la semaine dernière.
Oui, puis j'ai croisé.
Mes parents, peut-être.
Les gens vont être super contents de savoir.
Non, j'ai croisé le président des Riders en Bray.
Ah, ben lui.
Ah oui.
Donc, tu vois.
J'ai essayé de placer ma mère d'ailleurs pour faire des frites aux prochaines. On essaye de placer tout le monde.
En même
Et le cousin rempailleur, il a été pris ou pas?
En même temps, Forges-les-Eaux, il y a énormément d'artistes qui viennent en concert.
Moi déjà. Maintenant. Ah non, quand venais-je?
Non, non, je parle des artistes, des vrais.
Attends. Forges-les-Eaux, oui.
Bah, et Zazie, elle y est allée.
Marius et ses frites.
Et puis les brochettes de hérisson de la mère de Marius. On va voir ça un peu quand même.
Faut pas déconner.
Il y a un potier aussi qui fait des trucs vachement bien.
Ouais, Alexandre.
C'est vrai.
Oui.
Non, mais Forge les Eaux, c'est vachement.
Ouais, puis il y a un restaurant chinois aussi.
Ouais, c'est vachement. C'est chouette, ouais, c'est bien.
Bref, ça sert à rien de. Voilà, c'était.
On s'égare.
On s'égare là.
Et puis moi,
le vrai sujet que je voulais présenter, en fait. C'était sur la place Brévière. C'était le podcast Capture Mag, donc que j'ai découvert récemment. Alors notamment avec Ludo, je lui avais un peu mis ça en exergue et il m'a dit c'est extraordinaire, etc. Donc j'étais revenu. Oui. Donc qui est un podcast qui est assez récent, ça a commencé au printemps, je crois, oui. Quelque chose comme ça. Donc qui est composé de spécialistes de cinéma de genre. Donc moi j'en fais pas partie. Ludo en fait un peu plus partie, mais moi pas vraiment. Et aussi de culture populaire, qu'on peut qualifier de culture geek pour être un peu dans l'air du temps, mais globalement ils sont vraiment passionnants à écouter. Alors il y a Stéphane Moïsakis, Julien Dupuis, Rafik Djoumi et Arnaud Bordas, qui sont aidés par Mr. D, donc de l'agence 2Geek, moi c'est plutôt par là que j'ai découvert le sujet, et de Monsieur Smith à la technique, donc ils m'ont bien fait découvrir ce sujet-là. Donc ils parlent environ une fois par mois de news sur le cinéma de genre plutôt. Ils font des dossiers plutôt très poussés, ils ont quand même une culture assez encyclopédique de tout ce qui est cinéma d'horreur, fantastique, etc. Je sais pas si toi tu connais un peu Alex.
Les gars ont travaillé à Mad Movies. Hein.
Oui. Tu t'appelles Alex?
Non, il vient de répondre, il a hoché la tête. Mais dis donc, toi.
Il s'appelle Oh, chauffeur.
Mais c'est vraiment. Enfin, je finis mon topé après, je laisserai certainement à Ludo qui connaît mieux le sujet que moi. Donc, ils ont des invités, souvent aussi, eux également, très intéressants. Des coups de cœur et des coups de gueule. Et ils finissent en musique. Bon, vous voyez un peu ce que je viens de décrire, un peu, c'est un petit peu notre découpage à nous, hein, mine de rien, en toute modestie. Mais
moi,
comme quoi,
depuis longtemps.
On a des sujets qui se rejoignent et c'est vraiment, enfin, ils sont au moins aussi bavards et assez longs que nous. Hein, c'est-à-dire qu'il faut partir pour 2-3 heures hein, pour écouter ces podcasts-là, mais en général, mais c'est quand même hyper intéressant. Quoi.
Eux, ils disent des choses intéressantes.
Donc, et puis je vais faire un peu le lien avec Normandie Bulle, puisque moi j'étais rentré avec le premier épisode qui concernait donc Xavier d'Horizon, qui est donc un scénariste de BD que j'aime beaucoup, et qui a été interviewé, etc. Donc c'est par ce biais-là que j'étais rentré chez eux. Il avait évoqué notamment Les Sentinelles, qui est la BD qui sort d'ailleurs, le quatrième tome sort mercredi prochain, je crois, le 15, qui sera éventuellement adapté au ciné par Alexandre Aja ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas Alexandre Aja a pris les droits. Je sais pas si on peut s'en réjouir ou pas, mais en tout cas.
En tant que producteur, je crois. Parce
oui, que c'est en tant que producteur, justement.
Julien Mocrani, qui serait le
réalisateur et qui a déjà fait des rushs, des designs, etc. Enfin, je vous. Pour en savoir plus, allez voir les.
Mocrani, qu'est-ce que ça dit?
Bah, c'est son nom.
Non, mais il a fait quoi, entre autres?
Alors, moi, je ne connaissais pas ce monsieur. Mais je vous invite à écouter l'épisode 1, qui est très détaillé, très passionnant, et je vous conseille, faites tous les numéros, parce que quoi qu'il en soit, si vous êtes un petit peu intéressé par le cinéma fantastique, la science-fiction, l'horreur, etc., c'est vraiment un truc à découvrir avec des gens qui connaissent bien le sujet. Et puis bah, je fais un petit clin d'œil aussi dans le même style avec les animateurs de Split Screen, qui sont un peu des gens qui font des sujets de fond aussi sur du cinéma de genre. Pareil pendant 3-4 heures.
J'en avais écouté un, j'avais adoré sur. Ils avaient fait un sujet sur Pixar.
Oui.
Génial.
En deux, tellement c'était long.
Ah, mais oui, mais
en deux
super.
Épisodes de 3 heures.
Ah, mais ils t'ont découpé Pixar de A à Z.
C'était
hein,
génial. Ils font la même chose sur Gravity. Ils en ont fait un sur Gravity qui rentre dans les détails. En fait, c'est les détails des coulisses de tous les films et la culture geek, hein, parce qu'ils sont pas tellement cinéma francophone, c'est plutôt cinéma outre-Atlantique, et c'est vraiment hyper intéressant. Donc pour les citer, on peut les citer, j'ai cité les autres, donc c'est In the Blix, Olivier, Hervé Coiral et Gilles Dacosta, que je féliciterai aussi pour avoir gagné le premier prix du... Ah, j'ai plus
scénario,
le nom. Pour son court-métrage. Je sais plus le nom du festival, c'est un peu la honte, mais en tout cas, il a gagné. Donc voilà, c'est quand même...
Ça, c'est de l'info.
C'est important.
Je le remettrai peut-être dans les liens pour si ça vous intéresse, mais c'était vachement intéressant.
Une émission pleine de rebondissements.
Et puis...
L'important, c'est qu'il ait gagné.
Une petite touche un peu plus négative, donc c'est sur un sujet que Ludo nous avait présenté il y a un an. Bah, c'est un peu ça. Ludo nous avait présenté il y a un an sa découverte de Metaluna, ah oui. Qui a malheureusement mis en stand-by, bon, on va dire que c'est, même si ça sent quand même pas très très bon pour eux, leur publication en magazine. Donc eux aussi étaient dans cette mouvance un petit peu
bis, genre, etc. Ben voilà, le papier, je viens de citer deux médias numériques qui fonctionnent. Le papier, malheureusement, a l'air de ne pas avoir duré. Est-ce que c'est pour ces raisons-là ou pour d'autres choses ? On ne saura pas trop, mais en tout cas, c'est toujours triste. Voilà.
C'est dommage parce qu'en plus, ils proposaient vraiment une vision alternative en fait, de ce qui peut être proposé par la presse en général.
Exactement.
C'était vraiment sur un concept. Ils avaient vraiment leur créneau et leur place, quoi.
Donc voilà, je sais pas Ludo si tu avais des choses à ajouter sur ce que je viens de dire par rapport à ces sujets.
Non, rien de plus, tu as présenté ça tellement brillamment.
Beaucoup de brio. Ouais.
Voilà. Et puis moi aussi, je l'ai noté, un petit clin d'œil à mes amis, à ceux que j'aime beaucoup lire tous les jours, c'est le Daily Mars, donc qui est un blog spécialisé aussi, pas mal ciné, séries, etc., qui a aussi une vision un peu assez professionnelle du sujet et des sujets qui m'intéressent, donc souvent le cinéma, les séries, parfois, les mangas. Tu penses au Dr No qui a des avis très tranchés.
Parfois ils ont des critiques.
Mais en général, quand il y a souvent le pendant, c'est-à-dire qu'il y a deux visions. Et
c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont, au moins ils ont un vrai point de vue, quoi.
Oui.
Après on adhère ou pas, mais ils ont voilà, c'est. Il faut pas que reprendre, tu vois,
de la news, en fait, de l'actu, et puis des dépêches ou des choses comme ça.
Voilà. Comme Télérama un peu.
Mais voilà. Aussi, mais dans un autre genre, on va dire.
C'était une boutade.
Dans un autre genre. Eh bien voilà, je pense qu'on a fini pour la rubrique à braque. On va peut-être passer un petit peu, beaucoup de temps avec notre invité quand même.
Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Oh my goodness.
Baptiste Michelet, vous êtes peintre en bâtiment de... Ah, c'est pas vous, pardon, erreur.
Non, on a fermé la société, en fait. Dépôt de bilan et tout.
Ça marche. Alexandre Nicole, qui est donc notre invité ce soir. Et Alex, t'es là aujourd'hui pour nous parler de plein de choses. On a plein de questions à te poser.
Bah, merci pour l'invitation, en tout cas.
Déjà, pour commencer. En gros, nous, on est intéressés de t'avoir ici parce que t'as plein de choses dans ta besace. Et d'ailleurs, je me demande même comment tu fais pour tout mettre là-dedans.
Donc, dans la besace.
Voilà. C'est une bonne question.
On va en causer, on va aborder un petit peu tout ça ensemble.
En fait, j'ai des journées spéciales de 48
heures. C'est bien ce qu'on se disait, quoi. Et donc, Alexandre Nicole, donc, est non seulement co-organisateur.
Organisateur principal.
Du festival du film.
Dessus,
vous
même,
êtes déjà quelques-uns, quoi. Du festival du film fantastique de Rouen, qui en est déjà à sa 6e édition. Mais Alex, c'est pas que ça, c'est aussi une société qui s'appelle Phoenix Effect, dont Marius a parlé tout à l'heure, et qui alors là, où pour le coup, tu laisses libre cours à ton talent sur maquillage, création de prothèses, accessoires,
sculpture
de bustes, sculpture de figurines, art toys, produits dérivés, enfin bref,
masque, tout,
tout un tas de choses. Et donc on va un petit peu évoquer tout ça. Donc je me disais que ce qui serait peut-être pas mal, on va essayer d'évoquer ça en déjà parler du festival du film fantastique, et puis après on va passer sur toute ton activité professionnelle, à savoir si déjà le film fantastique c'est quoi, c'est dans le cadre de tes loisirs ou cette partie intégrante de.
Bah c'est en train de devenir une partie intégrante depuis quelques temps au niveau. Enfin c'est plus juste un loisir en fait.
D'accord.
Parce qu'à la base on était deux quand on a créé.
On a créé
le festival et tout. On a commencé au Calife. Donc les deux premières années on avait donc la première année une
Calife à Darnétal également.
Ouais, c'est la route de Darnétal. Et la deuxième année, on a eu tellement de courts-métrages qu'on est passé sur deux soirées.
Alors, parce que le principe, en fait, du festival, à la base, c'est de mettre en avant les courts-métrages amateurs.
Alors, du coup, c'est un petit peu pour nous le moyen de faire la promotion de tout ce qui est un petit peu cinéma fantastique, cinéma de genre en France. Et comme, de toute façon, la plupart des réalisateurs sont tous passés par le format court-métrage, ça reste quand même un axe et un art assez important.
Alors comment on fait pour de l'idée à la réalisation du concept et à la mise en pratique?
C'est le pote avec qui j'étais, avec qui j'ai monté le festival en fait, qui à la base est venu me voir en disant vas-y on fait un festival du film d'horreur. super. Et du coup, en fait, à la base, le festival s'appelait vraiment
Christophe
Festival
Redresse.
D'accord.
Christophe, c'est... Et aux aguets, on monte un festival, comment?
Et du coup, en fait, ça s'est fait un petit peu sur un coup de tête. Je crois qu'on en avait parlé au mois de décembre. Donc, c'était en fin 2008, un truc comme ça. Et en fait, la première édition avait eu lieu en mai 2009, quoi. Donc, c'était vraiment très, très court au niveau du délai. Et c'est pour ça qu'on a pu le faire la première fois au Calif.
Mais alors, vraiment, c'est question pratique. C'est-à-dire que, ouais, moi, enfin, on peut se réveiller en disant, nous, tiens, ce serait bien, on va se faire un festival, mais...
Comment tu t'organises?
Comment tu fais? Tu as déjà des contacts?
Je sais pas. En fait, on s'est même pas vraiment posé la question.
Comment ça se passe?
Nous, on avait lancé, enfin, l'axe principal du festival à l'origine, c'était vraiment la diffusion de courts-métrages. Donc, du coup, on a lancé un appel à candidature.
Ah, voilà. D'accord.
D'ailleurs, on avait dû poster, on le fait toujours, poster les infos sur le forum de Mad Movies. Et puis après, maintenant, il y a Facebook. Voilà, il y a le petit réseau, puis ça se sait assez rapidement, en fait. Donc, du coup, on s'est retrouvé très rapidement avec pas mal de courts-métrages, en fait.
Et la diffusion avait lieu, donc,
au Calif.
Au Calif.
Ouais, ah, ouais, oui, les deux premières années. Ah, et ensuite, il y a eu l'Omnia. Et
c'est vous qui avez démarché l'Omnia?
Non, c'est le cinéma Omnia qui est venu.
Nous
a contacté.
Pour rappeler, c'est que l'Omnia est un cinéma qui est à Rouen, en fait.
Ouais.
Et comment on fait pour sélectionner autant de films si on... C'est-à-dire que tu disais qu'il y a un instant que vous avez reçu un nombre important.
Ouais,
à l'époque, ouais.
Comment
là,
vous improvisez jury, en fait.
Sur quel critère?
Le truc, c'est que moi, de base, je suis maquilleur à effets spéciaux, donc j'ai vraiment le côté cinématographique qui rentre en ligne de compte, on va dire. Et après, il y avait le collègue avec qui on a monté le festival qui avait fait pas mal de courts-métrages en tant que réalisateur. Et puis en fait, au fur et à mesure, l'équipe s'est aussi un petit peu développée. Et là, par exemple, donc nous, on a fini la sélection mardi soir. Donc on a fait lundi et mardi soir de sélection. On était entre 10 et 12 personnes. Et là, pour le coup, donc on avait fait ça aussi l'année dernière, c'était vraiment fait avec un jury, on va dire, pas forcément, c'était ni professionnel ni amateur, mais c'était vraiment un jury, enfin un comité de sélection plutôt.
Au coup de cœur, alors.
Alors ça fonctionne aussi au coup de cœur, tout en prenant en compte la qualité des films, etc. Mais du coup, c'était vraiment aussi l'idée d'avoir un comité de sélection qui représente le public qu'on a au festival.
D'accord.
Donc ça veut dire que ça va être des fans de films, ça va être pour certains des geeks, ça va être pour d'autres des novices ou des cinéphiles affirmés. Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment assez large, en fait.
Oui, parce que...
Et ça se passe comme un vote, c'est-à-dire que chacun a un vote.
On regarde le film tous ensemble et on décide tous ensemble de savoir si
vous le prenez ou pas.
On le prend ou pas, et on prend bien évidemment... en compte tout l'esthétique du film, le scénario, tout ce qui est qualité d'image aussi, parce qu'il faut savoir que nous, derrière, on diffuse les films en DCP, donc c'est le format numérique pour les salles de cinéma, donc faut quand même qu'on ait un minimum de qualité pour que ça passe quand même sur grand écran, en fait. Et après, au niveau des films et de la sélection, on prend aussi bien des films étudiants, des films amateurs, que des films professionnels, en fait. On n'a pas vraiment de critères là-dessus.
Il n'y a pas plusieurs catégories, du coup?
Alors, en fait, on y pense. On pense même au niveau des prix, parce que c'est le public, pendant le festival, qui vote pour ses courts-métrages. Donc, de toute façon, il y a son court-métrage préféré, il y a ses effets spéciaux. Là, cette année, quand on a sélectionné 4 films d'animation, on va certainement rajouter pour cette année aussi un prix spécial pour le film d'animation préféré du public. Et donc voilà.
Et combien de films, en fait, vous recevez?
Donc là,
combien vous sélectionnez, voilà. Et ensuite, combien vous sélectionnez?
Là, on en a eu à peu près un peu moins de 50.
Ah,
donc
même,
c'est
attends,
ouais. À la fois beaucoup et pas beaucoup. Le truc, tout en sachant que nous, tous les gens qui participent aussi au niveau des bénévoles, ils prennent ça aussi sur leur temps personnel. Donc là, déjà, nous, on a passé deux grosses soirées
à tout visionner
et du coup, c'est assez éprouvant. Et puis,
pour combien à l'arrivée?
Là, on en a choisi cette année, il y en a 16.
Ah oui, quand même.
Il y en a 16 plus un hors hors compétition qui a été réalisé par un des membres du comité aussi, qui sera diffusé notamment pendant le comptage des votes, en fait, avant de révéler les prix le samedi soir.
Donc ça, c'est le point fort. La première édition, vous aviez commencé, j'imagine, avec moins que ça, parce que plus...
On a commencé avec beaucoup moins, mais je ne saurais pas te dire, je te dirais peut-être entre 20 et 30.
Et quand même, pour une première édition, alors
et en fait, la deuxième année, je ne sais plus, franchement, tu sais, ça remonte, ça remonte un petit peu.
C'est pour se rendre compte si tu veux de l'évolution, parce que manifestement, c'est comme un festival, là, qui a maintenant sa réputation, donc forcément, il y a des...
En fait, c'est sur. Enfin, nous, ce qu'on a remarqué surtout, c'est l'étendue des films qu'on reçoit. C'est que là, cette année, on a eu beaucoup de Canada, Espagne et français.
D'accord.
Et l'année dernière, on a eu anglais, Brésil.
Ça dépasse largement les frontières. Quoi.
Et là, le truc, c'est que. Encore une fois, nous, on fait ce festival-là sur notre temps personnel, et c'est 100% bénévole. Donc, du coup, on fait pas non plus une com spécifique au niveau de la sélection des films. C'est vraiment, en fait, on balance l'info, et puis, en fait, ça fait le tour.
Boule de neige.
Et puis, de toute façon, nous, au niveau de la programmation et de la sélection qu'on a besoin de faire, 50 films, c'était même un peu moins cette année. C'est déjà bien, quoi, parce que faut tous les visionner, et puis après, faut aussi les placer, parce que des fois, on se retrouve avec beaucoup plus de films que de places pour les diffuser.
Oui, Didouille. Frems.
Oui, tu dis que vous avez monté ça de vous-même, tout le monde, enfin, t'as énormément de bénévoles pour encadrer. Mais depuis l'existence du festival, il n'y a pas eu sponsor ou.
Alors, on a beaucoup de partenaires. Là, en fait, c'est pareil, hein, c'est comme tout festival. Alors, à l'origine, c'était festival du film d'horreur. Après, on s'est rendu compte aussi qu'on avait beaucoup. Quand même de films, donc on avait beaucoup de zombies, etc. Mais on avait quand même aussi beaucoup de fantastiques. Et pour rendre le festival un petit peu plus accessible aussi, on a décidé de le passer du festival du film d'horreur à festival du film fantastique, en fait. Parce que comme ça, le fantastique nous permet d'intégrer à la fois l'horreur, la magie, la féerie, la science-fiction aussi. Donc ça rend le festival beaucoup plus large au niveau de la thématique, quoi.
Et puis intéressant, c'est élargir les horizons aussi. En plus.
Ouais.
Mais au niveau des mairies, il n'y a pas.
Alors
de...
voilà, c'est là où j'allais en venir. Nous, on a quand même le soutien de la mairie de Rouen. Là, cette année, pour la première fois, on va faire une convention à la Halle aux Toiles. Et là, donc, on a une mise à disposition de la Halle aux Toiles par la mairie. Et depuis l'année dernière, on a le soutien du département. Donc on a une subvention du département de la Seine-Maritime, mais c'est pareil, il a fallu attendre 5 ans avant d'avoir quelque chose, parce qu'avant...
Mais est-ce que ça faisait pas peur le terme de festival du film d'horreur?
C'est pour ça qu'on l'a changé un petit peu.
C'est pas péjoratif, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, pour une municipalité, il y a des craintes parce que c'est spécifique à un public, c'est pas élargi à...
Non mais voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai en plus.
Oh bah c'est vrai, drogué,
selon Adrien. Non mais du coup on s'est adapté un petit peu à ça.
Ouais,
et puis
ça.
De toute façon, par rapport à nous, la dynamique et ce qu'on avait envie de faire du festival, le terme fantastique était plus approprié que horreur de toute façon.
Ouais.
Et donc voilà. Et pareil au niveau partenariat, enfin, on a aussi le soutien du service civique. Donc je sais pas si vous savez si vous savez ce que c'est. En fait, c'est un dispositif qui est géré notamment par la Jeunesse et Sport, et en fait ça nous permet en tant qu'association d'avoir un jeune, donc je crois que c'est entre 16 et 25 ans,
en liberté surveillée.
tout à fait. Du coup, on l'enferme dans une cave, on lui met un ordinateur, donc pas de connexion internet et tout, parce qu'il faut pas non plus déconner. Non, en fait ça nous permet d'avoir là on a des contrats de 6 mois. Qui sont indemnisés à hauteur, je crois, de 500 ou 550 euros par mois. Donc, des fois, pour des jeunes étudiants, quelqu'un qui arrive sur le marché du travail et tout, c'est quand même assez intéressant. Là, on a eu les derniers services civiques qu'on a eu, c'était des gens qui étaient vraiment dans le milieu un petit peu artistique, voire même culturel, quoi.
Et du coup, ça motive à fond. En plus, c'est toujours un projet motivant.
Ouais. Là, on avait eu pour le dernier contrat, on a eu, je crois, 37 candidatures, un truc comme ça.
Ah ouais.
Donc, c'est enfin voilà, on sait qu'on propose une mission aussi assez assez intéressante, que ce soit au niveau de l'organisation du festival et la participation aussi à la création de masques ou d'effets spéciaux en atelier. Mais voilà, ça fait partie des choses qui permettent aussi de faire avancer le festival. Mais ouais, c'est comme tout événement de ce type-là. On en est qu'à la sixième année et c'est pas toujours évident de concilier le côté c'est la passion aussi qui permet de faire vivre le truc, parce que sinon financièrement c'est vrai que c'est pas toujours évident à faire vivre quoi.
La logistique en plus doit être hyper lourde en fait, là avec la mise en place de la convention
depuis 6 ans qu'on fait le festival avec l'Omnia, enfin du coup ça fait 4 ans qu'on le fait avec l'Omnia. Du coup ça se passe très bien, c'est assez rodé, et c'est vrai que là la convention c'est un petit peu le gros nouveau truc. Donc non, ça va être assez sympa, mais c'est vrai que du coup il faut gérer en plus tous les exposants, tout ce qui est aussi lié à la sécurité, aux installations, etc. Et ça va vraiment nous permettre aussi de compléter un petit peu le festival, parce que on faisait toujours des petites expos ou des petites installations dans le hall du cinéma Omnia, et c'est pas toujours évident de faire un truc complet. Donc là on avait comme projet de faire pas mal de choses autour du festival, et c'est vrai que en discutant avec à la fois un pote et un bénévole du Festoche, quand on a évoqué la Halle aux Toiles, c'était un petit peu l'endroit idéal, parce que je pense que ça doit être à 100 mètres du cinéma,
à côté du ciné,
donc c'est
grand.
Top quoi,
puis c'est assez grand en plus.
Voilà. Et du coup, la convention, cette partie convention-exposition, se fera en journée, et les projections se feront le soir.
D'accord. Et ça va donc juste pour rappeler les dates, c'est du 23.
Alors, c'est du 23 au 26 octobre.
Pendant les vacances, c'est cool. Voilà.
Donc, le 23 au soir, ce sera un petit peu donc la soirée d'ouverture.
J'ai vu spécial Québec, alors tu peux en dire plus en fait?
Non, pas encore.
Ah, dommage.
Sur ton réseau, aller voir. En fait, on va accueillir. On va accueillir.
Castor Zombie qui déboule.
D'accord.
Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, des Québécois qui vont nous parler. Enfin, on va présenter des extraits de leur web série en fait.
D'accord.
Qui fait un petit peu le buzz sur le web, notamment au Québec. Donc voilà, la soirée. Ouais. On va vraiment leur consacrer un petit moment, sur un bon moment même sur cette soirée.
Ça sera à l'Omnia.
Les projections seront toujours à l'Omnia en fait.
Et c'est là où la web série va être diffusée, ou c'est juste des extraits?
Alors on va diffuser une partie de la web série, et puis après la convention va commencer dès le vendredi à 14h. Donc ce sera ouvert jusqu'à 18h, et les projections reprendront le soir à 19h30.
D'accord.
Donc voilà, et à peu près, ça se termine entre 23h30 minuit à peu près. On aura donc une grosse première partie avec une diffusion donc des courts-métrages.
Ça, ce sera le vendredi
qu'on a sélectionné. Ouais. Ouais, on est sur le vendredi soir. Donc les gens pourront découvrir les films que le comité de sélection a choisi.
Donc 8 le premier soir et 8 le deuxième.
Je crois que c'est 8. Attends, c'est 8 ou 9 c'est ça. C'est 9 le premier soir et 7 le deuxième.
D'accord.
Et là, pareil, donc le public va pouvoir voter. On clôturera la soirée avec Aux yeux des vivants.
Ah oui.
Donc un petit film français bien sympathique.
Maurice Bustillo, non, c'est ça.
Ça, je crois. J'ai pas le nom des réels en.
Donc, quand tu disais qu'il était un peu expert.
Et...
Non, mais c'est deux réalisateurs français. Donc
ils sont deux à l'avoir fait. En plus, il est sorti en ça. Il a pas eu non plus beaucoup d'entrées, je crois. Donc, il n'a pas été. Il n'y a pas eu beaucoup de copies de toute façon. Et c'est vrai que sur cette partie-là, par contre, on le fait toujours en adéquation avec le mien.
D'accord.
On choisit toujours les longs métrages comme ça avec eux. Ça permet aussi d'avoir, de toute façon, on a une très bonne dynamique et on fait un super bon boulot avec eux depuis le début, quoi. Donc là-dessus, on a toujours un échange à ce niveau-là, en fait.
D'accord.
Et du coup, après la deuxième soirée, pareil, le samedi, il y aura la convention en journée avec un concours de déguisement. Oui. Yeah. Donc ah, la thématique, ce sera les ennemis jurés, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, on invite les gens à venir déguiser, à s'inscrire, et il y aura des super cadeaux à gagner.
Ah, sympa.
Un joker.
Voilà, voilà. Et donc pareil, là, ce sera par contre du 10h-18h.
D'accord.
Au niveau des horaires, donc ce sera pareil pour le dimanche. Et ensuite, projection à l'Omnia dès 19h30.
D'accord. Oui, donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont en marge ou en lien, ouais, c'est pas uniquement des projections, voilà.
Ouais, quand voilà. C'est... Et pareil, encore une fois, là, donc première partie diffusion des courts-métrages que le comité de sélection a choisi. Et on va ensuite remettre les prix.
C'est, alors le prix, c'est quand même...
Alors c'est le Piranha Alien d'Or.
Qui est d'ailleurs, c'est
qui est
toi
de, qui est de moi, oui. Ouais, que ce soit le nom ou le design, oui, c'est
assez rigolo d'ailleurs.
J'en suis plutôt content. Mais ce qui fait plaisir aussi, c'est quand certains réalisateurs viennent au festival et qui disent non, mais il faudrait créer telle ou telle catégorie parce qu'en fait, la statuette, on la veut, quoi. Donc, donc ça fait toujours plaisir.
Mais c'est vrai, elle est très très chouette en plus. Donc,
ça fait toujours plaisir.
Et juste pour des questions un petit peu techniques, tu parles d'international et de choses comme ça, mais. Quand vous recevez un film brésilien, par exemple, comment vous arrivez... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui parlent portugais, est-ce que c'est ou espagnol, ou d'autres choses comme ça, c'est sur quels critères? Parce que l'histoire, est-ce qu'il faut qu'elle suffise d'elle-même ou est-ce
des fois... Alors nous, quand même, on essaye de faire en sorte d'avoir au moins le sous-titre. Donc, c'est pas toujours évident. Donc là, encore une fois, ça dépend des gens avec qui on fait la sélection. Parce que des fois, il y a des films qui vont pas être sous-titrés, qui n'ont pas forcément besoin. Oui. Donc ils peuvent éventuellement passer et le message sera clair pour tout le monde. Et des fois, s'il y a trop de dialogue ou trop de texte, c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Et on se retrouve aussi des fois quand même avec des courts métrages. Par exemple, au niveau du Québec, Québec, ils parlent français. Mais au niveau du Canada, ça arrive souvent où on a les films directement sous-titrés en français, en fait.
D'accord. C'est dommage parce que nous, on a Didouille qui fait des versions québécoises.
sous-titrés brésiliens.
Voilà. C'est une private joke.
Bien que le Québécois, des fois, j'ai vu quelques films venant du Québec, des fois, c'est pas simple à comprendre.
Ouais, il faut quand même le sous-titrer.
Justement, la web-série, les extraits de web-série qu'on va diffuser le jeudi, moi, j'ai eu la chance de voir tout en intégralité. Bon, le public aura pas cette chance, en tout cas, pas cette année. Mais c'est vrai que t'as un petit temps d'adaptation, puis après, en fait, ça va.
Tu rentres dedans, quoi.
Ça te fait voyager un petit peu, quand même.
Le samedi soir, tu disais qu'il y avait la remise des prix.
Ouais, donc il y a la remise des prix. Donc là, cette année, il va y avoir court-métrage préféré du public.
Et donc, c'est le public qui vote.
Ouais, c'est le public
alors,
qui vote.
C'est-à-dire, c'est à la main levée, c'est au cri, c'est...
Non, en fait, ils ont un petit bulletin qui fait office de bulletin de vote et de petit programme, en fait.
D'accord.
Et du coup, ils doivent choisir, ils doivent en choisir deux de chaque, en fait.
D'accord. Mais les sortants, ils doivent en l'urne.
Et en fait, nous, on les récupère après, et après, on fait les totaux.
Ouais, mais les gens qui seraient pas susceptibles de venir les deux soirs, c'est-à-dire qu'ils pourraient voter le vendredi soir.
Ouais.
Imaginons qu'il soit pas disponible le samedi.
C'est toujours équilibré au niveau du public entre le vendredi et le samedi, en fait. D'accord. De toute façon. Mais parce qu'il y a pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes films, en fait. Les 16 films, là, on va les diffuser vraiment sur deux soirs différents, en fait.
D'accord. Il n'y a pas les mêmes catégories qui vont être sur deux soirs différents.
Peut-être un peu. Si pour les effets spéciaux, les effets spéciaux maquillage et le court-métrage préféré du public. Mmh. Après, pour tout ce qui est animation, si je dis pas de bêtises, on a normalement tout mis le premier soir, en fait, le vendredi.
D'accord. Donc combien de prix? Donc tu dis qu'il y a les
différents. Là, cette année, je pense qu'on va en faire 3. Parce que comme on s'est fait plaisir sur les films d'animation, on va certainement rajouter un petit prix spécial animation. Et puis comme on l'a jamais sorti, on l'a jamais remis, c'est un petit peu l'occasion de le faire, quoi.
Donc c'est quoi ces prix du public? Prix
c'est prix du public à chaque fois. Donc c'est le Piranha Alien d'Or avec donc court-métrage préféré du public, effets spéciaux préférés du public et du coup film d'animation préféré du public.
D'accord. Et il gagne quoi?
Une belle statuette.
Piranha Alien d'Or.
Oui, mais il n'y a pas.
Le prestige?
Il n'y a pas. Oui,
y a
le
pas
prestige.
Une subvention financière pour permettre aux auteurs de poursuivre.
Ça fait partie de nos objectifs, en fait. On aimerait bien par la suite pouvoir justement remettre on va dire une petite somme au, oui, au réalisateur ou à la production pour pouvoir justement aider à la production du film suivant en fait.
Alors, Didouille, on m'a posé une question, mais je vais plutôt la poser moi-même.
et juste pour finir sur le samedi soir, une fois qu'on a fait la remise des prix, il y aura Les Griffes de la Nuit en VO.
Ah oui.
Donc de Wes Craven, 1984.
Donc avec Freddy en guest star, c'est ça
Ah, Freddy, c'est Les Griffes de l'ennui.
Ah oui, c'est vrai, pardon.
Quand même, c'est quand même une référence, quoi.
Ouais. Donc voilà. Ça... Et ce qui fait que vraiment au niveau de la programmation, on essaye d'avoir, on diffuse un long métrage français le vendredi, un classique américain le samedi soir. On essaye d'en faire un petit peu pour tous les goûts, d'avoir du nouveau, d'avoir de la un petit peu de nostalgie avec.
Ça marche bien, ouais, pour ce genre de public.
Ouais, ouais, ouais.
Didouille, vas-y.
Pour pouvoir s'inscrire et éventuellement être sélectionné au niveau des courts-métrages pour le festival, est-ce qu'il y a un cahier des charges à respecter, c'est-à-dire une durée limitée dans le court-métrage?
Alors, en fait, on a... Ouais, il y a un...
C'est intelligent, ça.
Il y a un, comment dire, il y a, on met en ligne un PDF, et d'ailleurs je pense que l'année prochaine on va carrément mettre en place une inscription en ligne, enfin 100% en ligne, parce que ça, je pense, nous faciliter la vie. Et en fait, non, il y a un règlement, avec les modalités d'inscription, les choses comme ça. Donc déjà, pour inscrire un film, c'est gratuit. Ça coûte pas du tout d'argent au réalisateur. Parce que nous, aussi, le but du jeu, c'est de faire connaître le travail de tout le monde. Et voilà, donc là-dessus, ce que je sais, qu'il y a certains événements qui peuvent demander des fois des participations financières. Généralement, on essaye donc que ça dépasse pas 20 minutes.
D'accord.
Oui, puis après, il y a aussi, on demande certains formats. Donc là, c'est des détails un peu techniques. Mais on demande certains formats pour justement pouvoir les diffuser après sur.
Ouais, que ça pixelise pas sur un écran.
Sur le grand écran.
Cracra ou des choses comme ça.
Voilà, que le dossier soit complet. Mais après, c'est pour ça que le film, il soit anglais, américain, brésilien, chinois, russe. C'est vraiment ouvert à tous, quoi. Et pareil, encore une fois, que ce soit amateur. Professionnel.
Ouais, c'est Marius.
Donc là, quand c'est comme ça, tu dis chinois, russe. Vous faites venir également le réalisateur. Donc comment ça se passe?
Alors, pour l'instant, la plupart du temps, ils viennent pas.
Parce que c'est à leurs frais.
Ça. Pour l'instant, c'est à leurs frais. Donc on verra aussi si par la suite, on peut pas faire évoluer les choses aussi à ce niveau-là. Il faut qu'on trouve des grosses subventions là.
Bonne question aussi.
Le mec qui vient du Brésil, tu crames le budget du festival rien que pour faire venir payer les billets d'avion.
Et est-ce que vous recevez des nanars de temps en temps?
Des nanars? Oh oui, vous avez des nanars.
Alors cette année, on en a quasiment pas eu. Ouais, on a eu une qualité assez égale, on va dire, sur ce qu'on a reçu cette année. Mais des fois,
Je crois qu'on en a avoir un dans notre bibliothèque.
Ça doit être marrant, ça. Un seul, tu
penses,
sur
les 5 minutes.
Bah des fois, tu rigoles.
Dans
lequel
on est dedans, Christophe?
Des fois, tu te grattes la tête aussi, quand même. Enfin, moi, pour le coup, je me gratte les dreads. Mais c'est toujours intéressant aussi, quand même, de voir même des nanars, entre guillemets.
Parce il faudrait essayer de voir s'il y a
ça
pas
un
prix à faire.
Non, ça, pas... ça te permet aussi de voir ce qu'il faut pas faire. Parce que moi, j'ai une petite tendance aussi à écrire des scénars et j'ai réalisé un ou deux cours sur des zombies aussi. Et du coup, c'est toujours.
Ça peut vite.
C'est toujours une bonne leçon. Puis, de toute façon, de manière assez large, là, on calculait avec un pote il y a quelques jours le nombre de courts-métrages que j'avais pu regarder depuis le début du festival. Et comme on se rappelle pas forcément de tout ce qu'on a eu au début, mais. Ça commence à faire.
Mais il y a peut-être un festival du film comique pour lequel vous pouvez refourguer certains films.
C'est bon, ça. Recycler.
Non, ou des fois, c'est arrivé aussi, on a des films, mais complètement improbables. Alors, j'ai pas spécialement d'exemple en tête, mais je sais que l'année dernière, ou il y a 2 ans, on a eu des films, mais rien à voir avec le fantastique. Mais pas du tout, vraiment, limite, c'était plus un film axé sur... l'intégration ou un truc social et
qui n'a rien à voir avec la thématique.
C'est du fantastique.
Ouais, c'est fantastique.
C'est de la perte de temps.
Non, aussi
qui est déjà non.
Non, mais en fait tu te demandes pourquoi les gens qui en voient en fait.
Parce qu'ils trouvaient son film fantastique et il s'est dit.
Mais c'est un film fantastique.
Heureusement qu'on n'a pas appelé le festival du film extraordinaire. Parce que sinon,
Une question au niveau du public.
Oui.
c'est quel public? Est-ce que c'est tout âge, plutôt des étudiants?
Je dirais que c'est
des vieux comme Ludo, des vieux comme moi, des garçons, des
filles. Du 16-45.
D'accord.
Mais c'est quand même assez jeune.
C'est assez jeune, c'est assez pointu. Ça vient de quel esprit en fait? Ça vient se marrer, donc ça se fend la gueule pendant tout le festival.
Ben en fait, je pense que les gens ils viennent. Puis, de toute façon, nous c'était aussi le but du festival à l'origine, c'était de faire découvrir des choses que les gens vont pas forcément. Parce qu'il y en a qui vont toujours voir des petits courts métrages sur internet, sur Facebook ou voilà. Mais là, le fait de venir dans une salle de cinéma pour voir autre chose. Que des grosses productions, parce que pour la plupart c'est ce qu'ils iront voir au cinéma, ça permet de voir des choses un peu plus comment dire, des hybrides des fois entre de l'amateur, du semi-professionnel, des étudiants, enfin voilà, ça leur permet de vraiment de voir des choses différentes avec des regards du coup différents, parce que c'est pas toujours les mêmes réalisateurs. C'est pas du tout les mêmes productions, en fonction de si c'est un film étudiant ou professionnel, les gars ils ont pas forcément les mêmes contraintes, parce que si c'est un film étudiant, ils vont peut-être avoir un thème imposé ou certains critères au niveau de la lumière, au niveau enfin voilà, des choses techniques à respecter que les autres n'auront pas forcément, quoi. Donc
Est-ce que vous avez l'angoisse du public qui sera là ou pas? Enfin,
pas trop.
Non, ça va.
Pas trop, parce que l'année dernière, on a eu combien? On a eu, je crois, 500 personnes sur 3 soirées. Puis nous, on considère encore qu'on est un petit festival, même si on espère
grossir
et tout. Mais voilà, de toute façon, tous les ans, on monte les échelons.
T'as déjà réservé le Zénith pour l'année prochaine, non?
Ouais, c'est ça. Ouais. Le Zénith, le Kind Arena et tout.
Donc 500 personnes. En fait, c'est la salle à l'Omnia.
C'est la salle numéro 2. Donc il y a 250 places à peu près.
C'est sympa, quoi. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est plutôt pas mal.
Au niveau de la diffusion, il y a pas il y a des flyers, des affiches.
Ouais. Au niveau de la com, ouais. Donc on a.
C'est relayé par les médias.
Ouais. On a affiches, flyers. On est quasiment dans tous les petits magazines ou les quotidiens locaux.
L'écran fantastique.
J'ai été tout à l'heure chercher le magazine L'écran fantastique. Donc merci à Alain, le rédacteur en chef de L'écran fantastique, parce que
tu allais le contacter quand même, directement, ou comment ça s'est passé?
Je l'avais, je crois. D'ailleurs, on a mis Facebook et on l'avait démarché.
Alain Schlokoff, c'est toujours là en fait.
Ouais, c'est toujours lui.
Depuis les années,
toujours lui et toujours aussi sympa.
Ouais, donc t'as une visibilité quand même qui est plutôt sympathique, quoi.
Ouais. Et puis pareil, là la semaine prochaine ça va être en promo. Interview radio et tout. Ouais.
Donc t'auras des radios genre énergie, ça sera moins d'audience que nous, mais faut pas te laisser démonter.
on
va voir. Petit à petit.
Non, puis ça va être le matin en plus, donc il va falloir que je me lève et tout.
Et du coup, là, pendant la prochaine semaine, là, tu vas mettre un peu en parenthèse ton activité plus professionnelle?
À la fois oui et non, parce que on a justement, la partie association, festival, est quand même relativement proche aussi de ma partie un peu plus professionnelle.
Ta partie professionnelle? Qu'est-ce à dire?
Alors, du coup, j'ai ma société d'effets spéciaux maquillage. Et aussi de tout ce qui est, on va dire, création de produits dérivés, notamment figurines pour la bande dessinée, quoi. Donc on va dire que j'évolue essentiellement dans le domaine cinéma et bande dessinée.
Donc tu es donc maquilleur, c'est ça?
Ouais.
Et créateur de prothèses, ouais. D'effets spéciaux.
Donc création de prothèses, même création d'accessoires en plus.
C'est ça qu'il te faut, Ludo, une prothèse.
Ah, une prothèse pour Ludo.
Pour jouer dans quel genre de production?
Ah, ça.
Dorsale.
Non, j'ai pas besoin de prothèse dorsale, donc tout va bien. Vas-y, bien sûr, avec l'âge. Est-ce qu'on brancherait de savoir, c'est comment est-ce qu'on en vient, enfin, c'est une question un peu à deux balles, mais comment on en vient au maquillage, enfin, d'où s'est déboulé cette passion, et comment on en vient à créer après une société?
Quand j'étais petit, je jouais au Lego.
Waouh. Et tu faisais des Lego qui étaient beaux?
Non. Ouais, sinon pour de vrai, je jouais au Lego. Mais non, je sais pas. Ça a toujours l'univers fantastique a été un truc qui m'a toujours qui m'a toujours branché, et en particulier tout ce qui était...
Moi aussi, mais si tu savais où j'ai fini.
mais j'ai vraiment toujours eu un grand intérêt pour tout ce qui était création de personnages, de créatures, etc. Je me rappelle aussi, j'en parle assez régulièrement, d'une émission qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Les effets spéciaux du cinéma américain, qui est une émission aussi qui permettait de voir vraiment les coulisses de toutes les grosses productions américaines. Donc il y avait, si je dis pas de bêtises aussi, Waterworld, il y avait Spawn, il y avait beaucoup les Gremlins aussi. Donc ça permettait vraiment de voir les coulisses d'un tournage, aussi bien au niveau des décors que de la création des personnages, des créatures et tout. Et c'est un truc qui m'a toujours fasciné, de pouvoir créer quelque chose qui n'existe pas et de pouvoir le rendre vivant à l'écran, en fait.
Mmh. Didouille ?
Est-ce que tu connais l'émission télé-réalité américaine Face
Off ?
Oui,
Face Off, ouais.
Et alors, t'en penses quoi ?
Moi, je suis pas du tout fan de tout ce qui était la réalité de base.
Oui, le problème, c'est ça. À la limite, l'idée, c'est le traitement, comme tu disais, le traitement, c'est dommage parce que
tu vois pas tout au niveau des coulisses. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu une discussion avec un copain aussi il y a pas longtemps sur tout ce qui est Miami Ink et tout, parce que lui, il est tatoueur. Et c'est pareil, quoi. Du coup, tu vois pas trop vraiment le détail, c'est vraiment de la télé-réalité, quoi.
Enfin, oui, mais c'est sur ça. La gueule, quoi.
Mais par contre, voilà,
dans les
membres du jury de Face Off, il y a quand même Patrick Tatopoulos qui est, entre guillemets, mon mentor spirituel, on va dire, sur tout ce qui est
une grosse
design.
Influence, quoi.
Ouais.
Oui,
c'est Godzilla, non ?
Ouais, il a fait les designs de Godzilla, c'est lui qui avait fait aussi les designs de la chapelle du Dracula de Coppola. Il a fait les créatures d'Independence Day, Underworld, pardon. C'est même lui qui a eu réalisé le troisième, je crois. Donc voilà, non, il y a beaucoup de choses.
Une grosse pointure.
Ouais.
Et puis il y a des guests aussi en fonction du thème qu'il leur donne. L'autre fois, il y avait les zombies, donc il y avait le spécialiste du zombie.
Ouais, je l'ai pas vu celui-là.
Mais c'était marrant.
Mais
truc, c'était, ils devaient faire un zombie. Donc, on leur avait affecté donc des danseurs.
Bon, voilà, nous raconte non, mais attends. Sa vie,
hein, non. Mais j'ai trouvé ça superbe. C'est pas con, mais t'y penses pas. Quand tu regardes un film et quand tu vois un zombie.
T'as vu le montage de. Tu penses pas à des danseurs, c'est
hormis,
ça, de thriller,
non,
quoi.
Mais hormis le fait que tu sais qu'il y a eu du maquillage et des heures et des heures de maquillage, l'idée, c'est que les mecs, dans un film, ça bouge. Toi, tu vois le maquillage, t'as l'impression que c'est simple, quoi.
Ah, et en fait, la lumière à travailler.
Le défi, c'était vous faites un zombie.
Un zombie.
Mais il faut surtout qu'il puisse se mouvoir. Pour ça, vous avez des danseurs, ils vont devoir faire une chorégraphie après. Donc, ils n'avaient pas intérêt de se lourder. Il y en avait un, il a voulu faire une grosse langue qui sortait. La difficulté, c'était de coller et de faire tenir la langue. Et tu te rends compte qu'en fait, tu ne penses pas à ça quand tu regardes un film.
Non, c'est clair, mais c'est fou.
Non,
hein.
c'est quand même super technique.
Enfin, ouais.
Il faut penser, puis surtout qu'en fonction... Donc là, en ce moment, je suis un peu moins sur la partie FX. Je suis plus sur les produits dérivés figurines. Là, j'ai lancé pas mal de choses à ce niveau-là. Mais c'est vrai que de toute façon, chaque projet de film, tu te retrouves avec des demandes de système... Enfin, systématiquement, c'est différent parce qu'il y aura jamais les mêmes contraintes techniques. Le réalisateur aura jamais les mêmes exigences. Par exemple, en fonction du maquillage, s'il faut entièrement recouvrir le visage, que le personnage il voit rien, que on doit pas voir son nez et ni sa bouche, il faut quand même que le comédien puisse évoluer et respirer. Donc voilà. Après, il y a un pourcentage de perte sur les acteurs et tout.
c'est des figurants, ça compte pas.
Ouais, c'est des doublures.
Il y a les assurances pour ça.
Tu travailles sur quel type de production ? Est-ce que ça t'arrive de travailler sur des grosses productions ou c'est toujours des films
L'entre-deux, en fait. Ouais. C'est beaucoup de courts-métrages, du long-métrage qui sort pas forcément en salle. Mais comme je disais, ouais, ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai un petit peu enclenché le mode figurine bande dessinée, qui est aussi une suite logique de tout ça, parce que de toute façon, généralement, quand tu crées un personnage et que tu veux ensuite le faire en maquillage, en fonction du temps que t'as et du budget, tu peux te permettre aussi de faire une version miniature. Donc du coup, ça te fait une figurine, enfin, ça te fait ton personnage en, en version miniature qui te permet aussi de, d'avoir un aperçu assez précis de ce que va te donner ton, ton maquillage derrière. Donc, la partie création de figurine, mais pour la bande dessinée, est, était pour moi aussi parfaitement
parce que
logique.
Tu peux être, enfin, t'es pas trop concurrencé par le numérique, justement. C'est-à-dire que tout ce qui est effets spéciaux, maquillage, est-ce qu'aujourd'hui, bah, c'est pas quelque chose un peu tombé en
désuétude? Bah, non. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu vois notamment des réalisateurs comme Guillermo del Toro, qui vont faire leur maximum pour réaliser un comment dire, enfin, réaliser des créatures 100% maquillage,
labyrinthe,
avec des gars en costume et des accessoires, et vraiment choisir le numérique quand ils n'ont pas le choix. Mmh. Et voilà. Après, moi, j'ai toujours été pour l'interaction entre les deux.
T'as raison, Marius, c'est mieux un pied comme ça.
Parce que de toute façon, quand tu regardes le numérique, il n'y a pas le, du tout le même charme. Enfin, je ne sais pas s'il faut créer
tout à l'heure. Ça vieillit plus vite.
Oui, hein. Oui, enfin, c'est... Tu choisis un loup-garou. Ouais. Imagine, tu prends un loup-garou. Clairement. Tu choisis de le faire en réel. Même si le costume, il peut faire un peu cheap. Bah,
ça vieillira différemment.
Ouais, ça va beaucoup mieux vieillir que si.
Prenons les Star Wars, par exemple. Qui...
Ouais, même les Seigneurs des Anneaux.
Oui,
les Seigneurs des Anneaux, je trouve, même au niveau des incrustations, ça a cher.
Mal vieilli, ouais.
Ouais, ouais. Pourtant, c'est pas si vieux que ça.
Ouais, ça a 10 ans, 10-12 ans. Ouais, mais les trucs, tout ce qui est sur fond vert, enfin, j'ai une image notamment, une où ils passent au-dessus d'un col et là, on voit vraiment qu'ils sont en studio, alors qu'effectivement, oui, sur certains trucs qui sont faits avec des bouts de maquettes, bah, c'est moins choquant. Les films d'il y a 30 ans, bouts de maquettes, bah, c'est moins choquant parce qu'ils avaient trouvé des choses.
Bah, même les Gremlins. Tu prends les Gremlins. Bien sûr. Ça passe encore super bien. Enfin, là, après, c'est un avis personnel.
Non, mais je suis d'accord, je partage.
mais voilà, quoi. C'est juste de la meupette et.
Ouais. Moi, je suis désolé, sur le pilote de Wonder Woman. Quand elle passe les tests pour savoir si elle peut descendre sur Terre.
Tu parles de l'original?
Oui. Ah, bah oui, oui, on a de la culture, on n'en a pas.
Où on est vu, où on n'est pas. Si je ne l'ai pas vu, moi, ce machin.
Non, attends, bah là, je te le prêterai, je l'ai.
Non, merci.
Et elle doit passer des tests. Les
Wonder tests.
Oui, c'est ça. Et elle doit soulever des rochers.
Ouais, en carton.
Ah, le polystyrène, c'était très bien.
Ouais, mais...
Et là, pour le coup, même à un moment donné, comme tu sais, il y a le pilote. Ouais.
Non, mais Didouille, c'est parler des choses bien faites aussi, que ce soit en numérique ou en
non, mais
en
quand
maquillage,
on dit que Star Wars a mal vieilli, quoi.
La chute des bonhommes en mousse.
Mais j'ai pas dit ça. Justement, les Star Wars ont très bien vieilli. Sauf ceux, hormis le scénario. Mais sauf les effets des Star Wars des plus récents, à mon avis, viraient moins bien dans la durée que les tout premiers, qui étaient peut-être cheap, etc., mais qui font finalement moins choquants.
Surtout qu'en plus, si je dis pas de bêtises, J.J. Abrams, il est parti vraiment sur des maquettes et des décors réels plutôt que de l'incrustation.
Attends, et puis si je peux me permettre, c'est pas cheap, c'est juste que effectivement,
c'est daté.
C'est daté, mais c'est pas cheap. À l'époque, c'était, il y avait
tous les
effets spéciaux, et c'était même une révolution, même au niveau des mouvements des vaisseaux. Hein, c'était.
Non, et puis de toute façon, le numérique, ça te lisse aussi, je trouve, vachement l'image. Je pense notamment à V. Là, j'ai pas trop vu la nouvelle série et tout. Ça paraît vachement aseptisé et tout. Alors quand tu regardes la vraie série originale,
celle des vieux,
du coup, ouais, tu vois que ça,
faisait la mule.
Que ça date un petit peu.
La mule.
Mais voilà, ça a son charme en fait. Ça a son charme.
Mais je suis étonné, Christophe, que tu dises pas que ça vaut pas quand même les Thunderbirds.
Ouais. Mais non, mais là c'est pas du maquillage, c'est des marionnettes.
Mais là pour le coup.
Mais par contre, pour moi,
c'est le charme du truc, donc tu peux pas critiquer.
Un des meilleurs films, enfin vraiment au niveau mix effets spéciaux et animatronique.
non,
Jurassic Park.
Jurassic Park, bah bien sûr.
Pour moi, Jurassic Park, ça a été aussi, moi j'ai grandi avec aussi. Donc voilà, mais.
E.T. c'était bien.
E.T. c'est, ouais,
il y avait peut-être moins de.
Mais là,
de
quand
CGI
tu vois,
dedans, ouais.
Mais là maintenant, Jurassic Park a beaucoup mieux vieilli que, on parlait tout à l'heure des Seigneurs des Anneaux.
Parce qu'ils ont su bien mélanger le.
Et parce que,
J'ai regardé très récemment La Planète des Singes 69.
Ouais.
Bah franchement, ça n'a pas du tout vieilli.
Dis donc, qu'est-ce que tu regardes, toi?
C'est la version érotique.
Ouais, la connaissais pas, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse.
À un moment, t'as Cornelia qui dit, Cornelius qui dit à Zira, bon, tu te retournes.
Oh, ok, on voit la suite. On voit la suite.
Non, mais sérieusement.
Tu vas aller voir, mais.
Je trouve que ce maquillage-là était particulièrement réussi parce que ça n'a pas vieilli.
Ouais,
c'est un avis.
Niveau maquillage. Et même, peut-être que le maquillage, même de celui de Burton, a peut-être, même si le film n'est pas terrible, de La planète des singes, le maquillage était pas mal. Mais le film était.
Ouais, c'était pas. Les maquillages étaient vraiment bien faits. De toute façon, on parlait tout à l'heure de Rick Baker.
C'est lui qui a fait les maquillages de La planète des singes.
D'accord. Sous sa direction.
Ouais. Ah, vous avez retrouvé son nom alors?
Non, mais Rick Baker, c'est le spécialiste du maquillage de singe, en fait.
C'est le frère de Steve.
Je sais pas forcément s'il est spécialisé en singe.
C'est quoi ton boulot, spécialiste des maquillages de singe?
Ben ouais.
Ça claque sur un CV, ça. Hein.
Bah, à mon avis, il gagne plus que toi. Hein. Ça. Tu peux le dénigrer comme tu veux, mais.
Enfin, en même temps, on fait pas des films de singe toutes les 5 minutes. Hein.
Je pense qu'il est pire. Hein.
Ouais, c'est clair. Mais, et du coup, tu parlais, parce que c'est vrai qu'on a un peu commencé à aborder le sujet. Nous, quand on s'est installé l'autre jour à Normandie, le premier truc qui m'a tapé à l'œil, c'était ton appareillage avec l'imprimante 3D. Ouais. Ça fait des choses dont j'entends beaucoup parler dans les différents podcasts que j'écoute, en voir une vraiment fonctionner avec les démos que tu fais, avec d'une maquette numérique. Tu transformes ça, tu l'adaptes, puis le temps, enfin avec ton collègue là que vous expliquiez à chaque fois, c'était vraiment intéressant. Et puis de voir tout de suite, enfin Marius, il a tellement tombé sous le charme que il en a une là sur la table. C'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc ça, comment on vient à une maquette numérique, à l'impression numérique, qui est quelque chose encore assez expérimental.
Ça s'est fait super facilement. Dans le sens où à la base j'ai commencé il y a peut-être deux trois ans à faire de la sculpture numérique, mais à la base j'ai commencé à faire ça juste pour faire, on va retomber un petit peu sur le principe des miniatures dont je parlais tout à l'heure. En fait, je voulais vraiment développer cet aspect là pour justement présenter au réalisateur une version 3D de sa créature qui à 85% ou 90% sera comme ça, une fois sculptée taille réelle, refaite en atelier avec moulage, costume en mousse de latex, etc. Et c'était vraiment juste l'étape suivante après le dessin. J'étais vraiment parti dans cette optique-là, en fait. Et un jour, je lis, je crois que c'était d'ailleurs un magazine SFX, il parlait notamment, je crois que c'est le premier ou le deuxième Iron Man, et il parlait justement d'impression 3D de certains éléments de l'armure, quoi. Et là, tu te dis... tu relis trois fois la ligne, quoi, parce que impression 3D, ça veut dire quoi? Donc tu vas sur le net, tu regardes, et tu fais « Ah ouais, ok ». Et en fait, au fur et à mesure, moi, j'ai fait faire un test par un prestataire d'une de mes petites figurines. Donc, c'était un des aliens que j'avais fait au tout début. Et puis, au bout d'un moment, tu te dis, ça me fait quand même vachement envie. Et au final, je me suis équipé.
D'accord.
Je me suis équipé. Et comme je disais tout à l'heure, ça m'aide beaucoup pour tout ce qui est création, conception de figurines. Pour tout ce qui est produits dérivés, même des porte-clés, même pour la partie cinéma, tout ce qui est éventuellement des éléments d'armure ou des accessoires. Là, on m'a demandé il y a pas longtemps de faire un faux couteau avec une lame rétractable. Ça me simplifie vachement la vie, en fait. Veut dire que c'est un travail différent. Moi, ça va pas m'empêcher de faire les sculptures à la main. Je prends autant de plaisir à faire une sculpture en numérique qu'une sculpture en traditionnel. Mais c'est vrai que, par exemple, faire un faux couteau avec une lame rétractable, pour moi, il n'y a rien de... Enfin, c'est pas un exploit, ou c'est pas un défi en soi de le faire. Donc, le fait de passer en numérique...
Ça fait gagner du temps.
Ça fait gagner du temps. Et puis, ça te permet aussi, des fois, de...
D'expérimenter, peut-être.
D'expérimenter. Et puis aussi, tu passes moins de temps sur la conception en atelier, à poncer ton truc, etc. Donc du coup, ça te permet aussi de proposer quelque chose à un tarif peut-être plus intéressant pour certains qui n'auraient pas pu se permettre avant de le faire. Et même au niveau figurine, parce que j'ai développé mon propre label et ma propre marque. Donc là, tout ça, c'est c'est moi qui le gère en interne. Et moi, derrière, je reverse les droits d'auteur aux auteurs et aux maisons d'édition, parce qu'on fait des contrats à ce niveau-là. Mais j'ai aussi des demandes de plus petits éditeurs ou d'auteurs pour qui je vais faire donc soit juste l'impression 3D de la figurine, parce qu'ils ont déjà quelqu'un qui leur a fait une modélisation 3D. Soit je vais faire tout le projet de A à Z. Mais le fait de faire une sculpture en numérique, déjà, je suis 4 fois plus rapide qu'une sculpture traditionnelle. Plus l'impression 3D et les histoires de moulage derrière et de tirage en résine, ça permet de proposer des choses plus intéressantes pour les plus petits, on va dire, auteurs et éditeurs, en fait.
La mode en ce moment, c'est d'avoir sa propre figurine.
Oui,
en 3D. C'est-à-dire qu'à partir d'une photo de vous.
Bah, je vais m'y pencher là bientôt.
Est-ce que c'est un créneau qui pourrait.
C'est pas forcément un créneau qui m'intéresse, mais qui m'intéresse quand même. non, c'est parce que ouais, ça peut être le truc assez marrant à faire. Ouais, et comme moi j'utilise à la base, c'était vraiment utiliser l'imprimante 3D pour développer tout ce qui est accessoires, figurines, miniatures, même des éléments de décor ou voilà. Moi qui suis aussi en train de me mettre à tout ce qui est un petit peu plus robotique. Animatronique va me permettre, grâce à l'imprimante 3D, justement, de fabriquer aussi certaines pièces. Donc c'est l'impression 3D, c'est vraiment un outil complet, en fait.
Ouais, ils ont fabriqué une voiture complète en 3D.
Ouais, une maison aussi. Ouais.
C'est un gros investissement. Ouais, c'est ce
que... Là, la celle que j'ai, elle vaut 2700, je crois, un truc.
D'accord.
Comme ça. T'as
un logiciel particulier ou c'est...
T'as un logiciel qui est forcément rattaché à la machine. Et t'as aussi, moi je travaille sur ZBrush pour tout ce qui est modélisation 3D.
D'accord.
Je ne jure d'ailleurs que par ce logiciel.
D'accord.
Non, c'est un logiciel super intuitif. Ouais. Donc
là, j'ai juste une photo en ligne et je voudrais savoir, ça c'est quoi ? C'est fait à la main ? C'est pas.
Alors, ça c'est pas du tout, mais alors pas du tout de l'impression 3D.
Ça c'est fait à la main.
Là c'est 100% fait à la main.
D'accord.
Donc parce que c'est un buste taille réelle, à la base c'est un masque. Et là j'avais refait un tirage donc en silicone que j'ai mis sur un socle pour justement faire un petit modèle.
Tu m'enverras le lien là.
Il y aura toutes les photos
sur
un petit modèle juste d'expo.
Parce que t'as une limite de taille peut-être, non?
Sur ma machine, ouais. En hauteur, je suis limité à 15 cm.
D'accord. Mais là, c'est à échelle normale.
Ouais. Ouais. Mais du coup, le truc qui est possible aussi, c'est que quand t'as une pièce que tu veux imprimer en plus gros, alors là je sais qu'ils sont en train de sortir des machines avec des volumes un peu plus importants, mais voilà, effectivement, tu prends ton personnage, bah je pense que vous avez vu le Baby Phoenix
à Normandie
Bulle, où en fait je l'ai séparé en 3 parties pour pouvoir en obtenir un de 30 cm en taille finale.
D'accord.
Il y a une question qui m'intrigue.
Mais c'est super, enfin c'est sans limite en fait au niveau de l'imagination et de la création.
Il y a une question qui m'intrigue depuis tout à l'heure. Quelle formation tu as suivi pour arriver à ce résultat-là, en tout cas à ce domaine professionnel?
On va dire qu'à 90%, je suis autodidacte.
D'accord.
Donc tout ce qui est modélisation 3D, l'impression 3D, je me forme sur le tas. Et après, pour toute la partie artistique,
on va dire
maquillage, dessin, sculpture, tout ça.
J'ai jamais pris un cours de sculpture de ma vie.
C'est vrai?
Ouais.
Alors là, non mais c'est impressionnant. Parce que quand on voit la photo, c'est impressionnant. Ce que tu sculptes,
mais après,
dragons, etc.
Ouais.
Impressionnant.
Bah, merci.
Ah bah bravo, t'as plombé l'ambiance, c'est malin. Bon, nous on est tous des merdes.
Tu disais pour tout ce qui est maquillage.
Pour tout ce qui est maquillage, moi j'avais fait quand même une formation sur Paris qui m'a permis quand même d'avoir les bases.
Oui, parce que les latex,
les bases de make-up et tout. Mais après, pour tout ce qui est vraiment gros effets spéciaux, création de masques ou même les créations de figurines, tous les moulages en silicone, les résines, ça c'est des choses que j'ai appris. Tout de suite par moi-même. Et c'est vrai que j'ai dû potasser, je pense, pendant presque 2 ans, des bouquins de moulage avant de pouvoir m'acheter des silicones, parce que j'avais bidouillé des trucs avec du latex. Mon frère a beaucoup servi de cobaye aussi. Mais avant de pouvoir t'acheter le matériel... Adéquate, on va dire, du bon silicone, une bonne résine, etc. Il a fallu attendre un petit peu. Et au final, je sais pas, même le moulage, c'est devenu un peu comme une seconde. une seconde nature parce que je me pose même pas la question de comment le faire, je le fais et puis.
Et sinon, le cancer de la peau de ton frère, ça se passe bien là, en ce moment? Comment ça se fait? Alors,
il est docteur depuis peu, mon frère, en virologie, hein. Donc.
Mais t'as pas cherché à faire de stage
Alors au début j'ai essayé d'intégrer un petit peu certains studios, ouais, sur Paris. En plus je pense que ça tombait pas forcément à la bonne période, parce que c'était une période où les productions faisaient de moins en moins appel à eux. Donc j'ai réussi à en rencontrer quand même quelques-uns, mais pas tous. Et puis en fait très rapidement je suis parti sur le créneau de je monte mon truc. Ouais. Et puis voilà, et au final ça fait, enfin j'ai réellement créé ma boîte il y a 2 ans.
D'accord.
Enfin, un peu plus de 2 ans, et on va dire que ça fait 6 ans que je fais ça à 100%.
Et tu as quel âge en fait?
31.
31, oui. Donc...
D'accord, oui.
Pourquoi 31 j'ai dit chaud, hein, j'ai dit 25 dans ma présentation.
T'as vu, j'ai été gentil, j'ai rien dit.
Non, mais chapeau, parce que c'est. Voilà,
parce que t'es un gros blaireau.
J'ai certainement truc qui avait au moins 6 ans.
Non, mais regarde, en même temps, 25, ça fait. Ouais, depuis mes 25 ans, commencé, je fais ça vraiment.
T'as peut-être mal lu.
À 100%.
Non, je me suis bien renseigné pour un coup.
La preuve.
Mais.
Non, mais c'est fort, en plus de monter sa boîte, d'y aller.
Sur un truc un peu de niche quand même.
Oui, c'est ça.
Enfin,
en fait.
A priori, ouais, faut ouais, quand ouais. même y aller, quoi.
Très
concurrentiel. Tu prends pas une franchise, quoi. Enfin, c'est un truc, tu y vas avec.
Ouais.
Et aller à Paris, ça t'a jamais.
En fait, non.
C'est vraiment là que tout est.
De toute façon, j'ai été 2 ans sur Paris, enfin 2-3 ans. J'y ai pensé, mais en même temps, Rouen, c'est pas si loin que ça. En ce moment, je fais beaucoup de figurines BD, ouais. Donc. Vu que tout le monde est un petit peu éparpillé aux quatre coins de la France, à l'exception des éditeurs qui sont en région parisienne, non, pour l'instant.
Au niveau de tes envies, là, aujourd'hui, si tu avais vraiment une grosse envie, ce serait plutôt d'aller sur un film, ou plutôt de partir dans la figurine, ou la sculpture.
En fait, honnêtement, là, moi, la façon dont je vois les choses, ce serait vraiment de développer vraiment toute la partie produits dérivés, bande dessinée. J'ai aussi quelques projets et j'ai fait quelques demandes sur certaines choses. Non, je peux pas. Sur certaines choses, mais qui touchent un peu plus du coup au cinéma, mais pour faire de la figurine aussi. Ce serait vraiment de pouvoir développer tout ce côté-là. Pouvoir aussi, parce que moi j'ai le potentiel pour entre guillemets pouvoir embaucher, mais pas le potentiel financier. Donc c'est toujours un petit peu le même problème. Donc en fait, j'aimerais bien pouvoir créer quelques embauches dans l'année qui vient ou dans les 2 ans qui viennent, par exemple, et
ça m'intéresse
et avoir pourquoi pas vraiment des gens qui vont s'occuper de faire les résines, les moulages en atelier, qui vont moi me permettre de me libérer du temps et de pouvoir vraiment consacrer mon temps soit à la sculpture de ces personnages là et aussi de développer encore plus la partie cinéma, parce que moi de base c'est vraiment la partie cinéma qui m'intéresse, c'est vraiment donner vie à un personnage. Maintenant je m'éclate à fond quand je crée un personnage aussi pour en faire une figurine, quoi. C'est pas du tout le souci, mais voilà. Et même à la base, ma première figurine, enfin, c'est parce que on est un peu parti sur un délire avec un photographe avec qui j'ai travaillé, qui est aussi devenu un pote, et on s'est retrouvé à faire une sculpture d'un des dragons d'Eliane Blackmore. Je sais pas si vous
comme
connaissez.
Ça,
il a fait les ouvrages qui s'intitulent Sur la piste des dragons oubliés. Et donc voilà, on avait commencé à se taper un délire en disant, tiens, on a l'accord de l'auteur. On va faire un dragon pour un projet photo, sauf que l'auteur a
adoré
et du coup c'est devenu un projet beaucoup plus important, où on a carrément développé la statuette en édition limitée.
D'accord.
Donc voilà, et ça a été entre guillemets un petit peu le premier gros projet figurine, et donc voilà. Et puis du coup j'ai continué.
Quand tu crées une figurine, tu pars toujours d'un dessin ou t'as une image comme ça avant de la sculpter, ou
alors,
tu fais un croquis
alors
avant...
En fait, ça dépend. Je peux avoir ou le dessin ou le design 3D. Par exemple, que si c'est un personnage que moi j'ai créé. Et dans le cas où c'est un personnage, donc que ce soit de la BD ou pas, dans le cas où je reproduis en volume le personnage de quelqu'un d'autre, il me fournit forcément les dessins en amont, donc avec les faces, les profils, le personnage aussi en situation, parce que de toute façon il y a toujours une pose particulière à donner au personnage, et puis des fois il faut avoir aussi quelque chose d'assez dynamique, donc voilà.
Très bien. Et s'il y a des gens qui veulent te retrouver ou te contacter, parce que c'est vrai que...
Ouais.
Attends, excuse-moi. Parce que là,
ça c'est un de ces dessins.
Donc Tidou, tu m'enverras le lien, qu'on le partage, parce que là c'est pas très...
Et c'est pareil, Eliane Blackmore est aussi un de mes... mes références, on va dire,
en termes de design. Ça,
en termes
ça
de
gueule,
design,
quoi.
Ah ouais, non, mais c'est juste un tueur, quoi. Enfin,
c'est notamment un des bus qui était dans ton expo.
Il y avait quelque chose.
C'est celui-là, ouais.
Magnifique.
Le Moat Tarva, ouais.
C'est ça.
Ouais.
Dans le micro, dites oui.
Eliane Blackmore, c'est ça.
D'accord.
C'était la tête de dragon. Ouais.
Oui, donc pour te retrouver, les différents liens, t'as un site internet.
Ouais, il y a le site du festival qui est d'ailleurs en cours de mise à jour. c'est rouenhorrorfest.com. Et puis aussi pour toute la partie un peu plus effets spéciaux, 3D, création de figurines, etc. Ce sera phoenix du 6 effect.fr.
Ok, bon, on mettra tous les liens là-dessus pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même de ce qu'il est capable de faire Alex. Enfin, nous, on a pu le voir effectivement c'est pour ça qu'on a souhaité et qu'il a gentiment accepté de venir se joindre à nous pour nous parler de tous ces...
Plaisir.
Enfin, si on avait su qu'il était autodidacte, on n'aurait peut-être pas fait ça.
Et surtout qu'en plus, là tout à l'heure tu me posais des questions sur l'imprimante 3D. Par exemple, les prestations, ce que j'en fais souvent en ce moment, les prestations et les démonstrations d'impression 3D, c'est pareil, c'était pas un truc qui était spécialement prévu. Donc c'est pour ça quand même on parlait des petits personnages à l'effigie des gens, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire ou que j'ai forcément prévu, mais si je m'y mets et que
ça marche,
et là c'est vrai que pour le coup là j'ai fait des démonstrations d'impression 3D à la Japan Expo, à Geekopolis, on était il y a pas si longtemps que ça en Suisse à Polymanga. Donc ça se fait aussi avec.
Mais il n'est pas à Forges-les-Eaux, je ne comprends pas.
Ça se fait aussi du coup avec TAG, l'équipe de TAG.
Mais si vous connaissez. Il était là à Darnetal l'année dernière, non?
Il était venu, oui.
Il était venu, oui, parce qu'on m'en avait parlé, les organisateurs m'en avaient parlé. Donc
Laurent était venu.
C'est TAG, ils font du design geek, un petit peu, des choses comme ça, non?
Non, c'est un site d'actu geek sur l'art, sur la technologie, etc. Et du coup, il y a un petit groupe aussi d'artistes qui fait partie de tout ça, et donc je fais partie. Et ce qui fait que sur des salons comme ça, d'ailleurs, ils seront présents aussi au festival. Et du coup, c'est vrai qu'on fait des stands TAG, mais avec plusieurs artistes en fait. Donc il y a des graphistes, il y a un gars aussi qui fait du papercraft, l'impression 3D. Enfin voilà, ça reste assez. D'accord. Assez large.
Il y a des prochaines expos, des prochaines manifestations où on peut te retrouver ?
Ouais. Il y a le 18 octobre, on sera à l'Espace Désiré à Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc ce sera un petit peu une soirée rétrospective des courts-métrages de l'année 2013. Donc qui va marquer un petit peu aussi le début du festival.
Ouais.
Et on va présenter aussi, donc là il y aura encore stand de maquillage, il y aura démonstration d'impression 3D, il y aura des projections... et on va aussi présenter en avant-première les éléments de décor d'un nouveau projet en fait. Et là pour le coup c'est vraiment le projet parfait entre le festival, enfin la partie associative et la partie professionnelle. Et en fait c'est un projet de maison hantée itinérante.
D'accord. Oui,
donc ça s'appelle.
Raconte un peu.
Mais je pense que là, en plus, parce que j'ai pas encore publié réellement le nom du projet. Je crois que ça va être un peu une exclue pour vous. Ça va être un scoop.
Donc.
Non, en fait, ça va s'appeler Frankie et son aventure extraordinaire, qui va reposer sur un personnage que j'ai créé aussi, qui s'appelle Frankie. Et c'est un petit art-œil, mais un peu plus détaillé. Et en fait le concept ça va être de créer un parcours où les gens vont pouvoir se balader tout en suivant les aventures de ce petit personnage. Donc il y a bien évidemment du zombie, de l'extraterrestre, des choses comme ça. Et donc voilà, on est en train de monter ce projet-là. Et l'intégralité aussi de Frankie, son aventure extraordinaire, sera présentée pour la première fois les 29 et 30 octobre aux rencontres jeunesse à l'hôtel du département. Donc là ce sera vraiment, donc on est en train de faire une façade de maison hantée, donc là on est à plus de 5 mètres de haut, donc ça va être
dans le hall du département.
Ouais.
Ils sont en train de le monter, non?
Non, on est en train de le fabriquer dans un des hangars du département et on va l'installer pour les 29 et 30. Et de toute façon, on va se... On va se voir là-bas. Et donc, on va monter vraiment cette façade en guise d'entrée. Et en fait, les gens, donc derrière, il y a un couloir avec des salles de réunion. Je sais pas si tu vois comment c'est fait.
Oui.
Et du coup, on va vraiment investir ces salles de réunion et créer un petit parcours où les gens viendront pour se faire des petites frayeurs. Il y a aussi d'autres temps d'animation... prévu, mais
ça veut dire que les salles de réunion
peut-être pas pour les trop petits, mais 16 ans, à partir de 16 ans.
Ah oui, donc oui,
de toute façon c'est gratuit aussi, hein.
Alors j'irai pas, ça va me faire peur.
C'est ouvert à tous, et après le but du jeu c'est de, comme je disais, ça va être une maison, enfin un concept de maison hantée itinérante, et le but du jeu ça va être après de le présenter pourquoi pas dans d'autres festivals, de trouver d'autres mairies partenaires, parce que là en fait le département est aussi partenaire. De ce projet-là. C'est d'ailleurs avec eux que ça a été lancé. Et puis c'est pareil, hein, encore une fois, ça a été tiens, si on faisait ça, c'est parti. donc c'est cool, quoi. Et on a aussi la mairie de Rouen, mais sous les azimuts. On sera présent aussi le 12 novembre à l'hôtel de ville, où il y a toutes les associations rouennaises qui investissent la mairie de Rouen, donc on va présenter aussi là-bas des éléments de décor et des animations. Et on a aussi la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray, pour le coup, qui est partenaire aussi du truc.
Merci.
Et puis la petite parenthèse, c'est que pour revenir vite fait sur le festival, on a un partenariat aussi avec le Gibier de Potence. Je sais pas si
la
Romerie, oui. Et du coup, en fait, après chaque soirée, enfin après les diffusions, en fait. On va se retrouver là-bas avec les réalisateurs qui veulent venir, les membres de l'organisation du festival.
Ça fait un peu loin.
Éventuellement les partenaires et tout. Et du coup, ça permet aussi de rencontrer un petit peu tous les gens du festival. Et puis même, ça permet aussi une certaine proximité avec le public pour ceux qui ont envie de venir. Donc voilà. C'est vraiment en mode convivial. Hein. Ouais,
Ok. Eh ben super. Eh ben merci Alex d'être venu nous présenter toutes ces facettes.
J'espère que ça vous a plu.
Très attentive et pourtant Dieu sait que c'est pas le milieu que j'affectionne particulièrement.
Je sais pas quel milieu tu aimes bien toi.
La bouffe et le cul.
Non mais moi je repars.
Surtout que tout à l'heure ça parlait sextoy.
Voilà.
Ah non mais c'est. Je repars avec ma petite fille.
Non moi ça me fait peur. Les choses qui me font peur font peur.
Ah c'est bien. Ah ben d'accord. Tu as une vie riche, c'est bien.
Comme le salon de l'érotisme quoi.
Voilà. Ça fait peur.
Ça fait peur.
Non, merci et puis on laissera donc les coordonnées et puis les liens pour tout le monde et puis
merci à vous.
Allez vous faire votre idée.
Je reviens quand vous voulez.
Ah bah ça va.
Oui, c'était carrément sympa.
Tu nous fais
on aura l'occasion vu tout ce que tu as à faire derrière.
Exactement.
On va faire peut-être peut-être l'année prochaine, pourquoi pas voir pour les projets et tout, peut-être entre-temps, il y a pas de souci, on est en contact. Clairement. Et puis si jamais il y a des auditeurs qui vont au festival, qu'ils n'hésitent pas à nous faire des retours également.
Il y aura peut-être des places à gagner pour l'année prochaine.
Ou même cette année, si vous voulez, on peut faire gagner un petit pass.
Allons-y.
Pourquoi pas?
Parce que l'entrée à l'étoile sera gratuite. Et puis après, au niveau des tarifs, je sais plus, j'ai plus le flyer sous les yeux. Le pass des trois soirées, il est à 16,50.
Ouais, d'accord. C'est même pas cher.
16,50 les trois soirées à l'Omnia. 12€ en tarif réduit, et après une soirée c'est 6,50 en tarif normal, et tarif réduit c'est 5€.
Ça vaut même pas la peine de faire passer quoi, faut essayer.
Mais en tout cas c'est avec plaisir que On offre un pass, pour les trois soirées.
Très bien. On va noter ça. On fera ça dans le lien du billet.
C'est la classe.
En partenariat. Merci encore une fois.
J'adore ce
jingle. Ah, il est vraiment top. Il est l'allemand qui se déjeune là-dedans.
L'allemand, mais qui est anglais, mais c'est pas grave.
On croirait un remake.
T'as pas fait de progrès en anglais, en fait.
Ça pourrait faire un générique de film d'horreur, ça.
Cela étant. Tu veux te placer comme... Bon, allez.
Didouille.
On va arrêter, Alex. Didouille, il va dire ils sont juste venus pour se placer tous.
Comment Didouille. Tout le monde te fracasse ce soir.
Didouille, vas-y.
Personne ne te laisse parler, j'ai l'impression.
Mais non, j'ai placé.
Vas-y.
Place
ta rubrique pour qu'on soit moins bête.
Oui, moi, je voulais vous parler de l'exposition qui a débuté.
L'exposition. Ma belle chez Moule.
Qui a débuté le 4 octobre au Musée des Arts Ludiques à Paris et qui continuera jusqu'au 1er mars 2015 sur les dessins merveilleux des studios Ghibli. Ghibli. Oh.
J'aime bien faire mon
chien. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Marius. On dit Ghibli ou Ghibli ?
On dit Ghibli.
Enfin, moi, je suis assez fan de Miyazaki et de Takahata.
Il y a Takahata aussi. Mais...
Voilà. Et ces deux grands qui nous ont fait voyager. Moi, personnellement, je suis une fan inconditionnelle de mon voisin Totoro. D'ailleurs, Alex, il y a un Totoro qui est sorti version Iron Man, qui est très joli.
D'accord, ok, j'ai pas vu.
Ouais, il est super rigolo.
Le mix a l'air bizarre, mais...
Non, comme ça, c'est super sympa. Et en fait, cette exposition va retracer 30 ans de dessins du studio à travers 1300 dessins originaux qu'on appelle les layout. Alors
layout.
Vous m'avez cassé les faits là. Je voulais demander justement.
Ah, layout, ça
voilà.
C'est
alors Marius, comme tu fais de l'anglais.
C'est un calque.
Voilà, et je voulais que tu nous le prononces correctement s'il te plaît.
Tu fais de la moto et de l'anglais en fait.
Layout. C'est dur.
Voilà.
Layout.
Layout.
C'est un calque. Dans Photoshop, Illustrator, c'est des.
C'est un peu ça, ouais. C'est des
esquisses en fait, c'est ça.
Exactement. Pas grand chose en animation, mais.
C'est exactement ça. Oui. Et donc, c'est la première fois qu'une telle exposition a lieu en Europe. Et le public va pouvoir admirer tout ça, la genèse, toutes les productions des studios et ce que l'on peut découvrir sur grand écran, ils le verront en dessin. Enfin, les prémices, la naissance des différents personnages du tombeau des Lucioles. Ouais. Oui, moi personnellement, celui-ci, j'ai adoré aussi.
Moi, je voulais voir la...
Il fait chier,
la dernière, la princesse...
Mononoke.
Le dernier de Takahata, j'ai plus le nom, pardon, pour ceux qui l'ont vu.
Ça finit en A, en fait.
Désolé, c'est pas très sérieux, mais ça.
Shibuya.
Il est pas resté très longtemps à l'affiche, et puis c'est moins diffusé que les Miyazaki, parce que c'est moins grand public, moins enfantin, entre guillemets. Mais il avait l'air très très bien. Mais si tu peux juste redire les dates parce que
elle a débuté le 4 octobre 2014, donc oui. Là il y a pas longtemps, et elle se terminera le 1er mars 2015, et ça se trouve au Musée des Arts Ludiques à Paris, quai d'Austerlitz. Et sinon
fait,
vous allez
Marvel
sur
aussi, non, dernièrement, avant. Juste avant c'était Marvel, non, qui était là-bas, non, il me semble. Oui, c'est ça.
Bah sûrement.
D'accord.
Et sinon Jean-Robert vous allez confirme. Sur le site artludique.com et vous aurez toutes les informations sur ce qu'est ce que sont les layouts.
D'accord.
Et voilà.
Sinon,
et puis
allez voir.
Vous aurez aussi un interview du réalisateur, scénariste, producteur Isao Takahata et de Hayao Miyazaki.
Eh ben, nous dirons. Enfin, moi, j'aimerais bien y aller. Ça te dit, Starlet, qu'on aille... T'en fous, toi?
Elle dort, là, laisse ça tranquille.
Non, elle est en train de préparer son sujet suivant. En tout cas, merci.
Je finirai simplement par une des citations qui se trouve sur le site et que j'ai trouvé absolument superbe, de Miyazaki, qui disait que l'animation est une illusion et le public est curieux de voir comment elle va l'éblouir.
C'est très bien. Bah écoute.
C'est vrai que c'est vrai, c'est bon.
Et l'expo va le démontrer, on va voir ça.
Exactement.
Alors. Donc, bah, si vous voulez être un peu moins bête, savoir ce qu'est un layout.
Exactement.
C'est de quoi, Miyazaki.
Je pourrais vous le dire, hein, j'ai la définition, mais justement, allez-y, allez voir.
Christophe n'avait pas encore joué avec le clavier jusqu'à présent.
Ah, ça me manquait un peu là.
D'un coup là, hein,
je me réveille, je me dis putain, j'ai un clavier de jingle à côté
et
de moi.
Et là, non, la classe américaine n'a pas encore frappé aujourd'hui.
Eh bien,
merci Didouille.
Bah de rien. Et avant Marvel, vas-y. C'était les 25 ans d'animation de Pixar, autant pour moi.
Oui,
ah, c'était peut-être. Surtout. Non, tu avais les super-héros avant Miyazaki et Ghibli. Et avant les super-héros, c'était 25 ans d'animation chez Pixar.
Ça fait quelques mois qu'il y a quelque chose de, enfin, que les expositions au musée des arts ludiques sont vraiment très intéressantes. Oui. J'en ai vu aucune, mais
t'as le temps. Regarde jusqu'au 1er mars 2015.
Oui, mais je voulais aller voir Gottlieb et je voulais voir Star Wars Identities.
C'est vrai, moi aussi,
et j'ai
je
rien
voir
fait.
Gottlieb.
Donc, au final. Oh là là, bref.
Mais c'est Walter. Walter y est allé voir Star Wars.
Par exemple, mais il y a d'autres gens, hein, tu sais.
Oui, oui, mais...
qui sont allés.
Non, mais au pire, ceux qui n'ont pas pu, ils vont sur Facebook. Et...
et voilà.
Voilà.
Allez, merci, Didouille.
Il y a autre chose.
À Starlet. Hein? Oh, t'avais
c'est
pas fracassé,
jingle, ça aussi.
Pas encore, allez. Sometimes when the rain falls, I think of you. It gives me this peaceful feeling. Attention, ustensile utilisé, ouais. Présent sur le bureau, hein, quelque chose d'une trentaine de centimètres de haut.
Voilà. La fin du
de façon de forme cylindrique.
Voilà.
Blanc. Et rose.
La couleur n'importe.
Non,
la couleur importe
trop.
Peu.
Non, dites pas.
Je pense que les auditeurs commencent à avoir des doutes. Je pense que Starlet a pu tester.
Je pense que la fin du générique se marie assez bien au produit qu'il va présenter.
Donc, on va rester dans le thème du frisson et de l'émotion, puisque je vais embrayer sur la sudation.
Oh.
J'ai testé pour vous le déodorant 72 heures.
Ah,
pour les gens qui seraient tentés de rester 3 jours sans se laver.
Voilà, ça m'intéresse.
Juste
ce conseil.
Ringo, n'écoute pas.
C'est vrai que ça colle pas trop avec les demandes que tu voulais de fans. Les DJ Riddle, n'écoutez pas.
Là, tu viens de te griller pour la vie.
Merde. Donc voilà, je suis partie de la base.
D'une interrogation, quand même.
Vous voyez, je me suis dit, qui peut le plus peut certainement le moins. Donc si ça tient 72 heures, ça doit tenir à l'aise les 24 heures de la journée. Ce que j'ai testé.
Vu comme tu l'amènes, je suis pas persuadé qu'on passe un partenariat avec Narta longtemps.
Donc c'est Narta Resixil, antitranspirant 72 heures, résiste à l'épreuve des tests.
À l'épreuve des balles.
Mais pas le test de Starlet, visiblement.
À l'épreuve du feu aussi.
Vas-y. Non, mais je sais pas.
Donc, quoique. Bon, voilà. À la base, je voulais faire le test vraiment 72 heures, etc. Sauf que je me suis rendu compte que déjà au bout de 6 heures.
Tu commençais à wincher.
Mon déodorant commençait à me lâcher sévère, alors que bah, normalement, je tiens des 24 heures quand même.
Ah oui.
Donc,
tu as fait quoi pendant ces 6 heures qui ont fait que.
J'ai subi ma propre odeur.
Ah oui, mais d'accord.
Ah non, avant, non,
mais même
une activité classique.
Elle a même pas fait du body pump ou.
Bah non, je ne fais pas ces choses-là, moi.
C'était quel jour?
C'était lundi, mardi, mercredi.
Ah oui, ça va. Ok, ça va. Il était à Toulouse, toi. Hein.
C'est un jour où j'étais pas là. Bah, ouais. Pas de souillon à la maison.
Donc, j'ai testé pour vous le déodorant 72 heures. Franchement, c'est de la daube.
Voilà.
C'est vraiment de
la merde. Daube.
Est-ce
vraiment
que t'as suivi les consignes d'utilisation?
Bah, se laver avant, oui. Bien agité, oui. À 15 cm des aisselles.
Tu l'as mis sous tes bras, ouais.
En fait, t'as mis des choses. Qu'est-ce que t'as voulu désodoriser? En fait, c'est ça qu'on se pose comme question.
Ah, mais en fait, c'est pas un Febreze.
Donc, c'est de la merde. Mon petit Sanex marche bien mieux. Je suis sûre que je peux tenir. La prochaine fois, je teste le Sanex pendant 72 heures.
Qui est censé durer 6 heures, lui, par contre.
Voilà. On sait, je vais y arriver.
Incroyable.
Moi, déjà, rien que l'appellation Resixil, je sais.
Non, mais rien que le fait qu'on te dise le truc pour 72 heures.
T'en as pas besoin.
J'ai quand même des gros doutes. Si le truc il tient 24 heures, déjà, c'est pas mal.
C'est pas mal, ouais.
72 heures, bon.
Non, ça sous-entendrait même que pendant 72 heures, tu ne te sois pas lavé les
mais
aisselles.
C'est exactement
ça. C'est ça.
Ou alors c'est parce que ça masque les odeurs. Au bout de 72 heures, ça te masque. Oh, et ça c'est un côté fébrile, justement.
Est-ce que vous avez lu, quand même,
Nartares Exil convient pour une utilisation quotidienne. Vous pouvez l'utiliser en cure sur les premiers jours d'utilisation en l'appliquant le soir. Ceci participera à la régulation progressive de votre flux sudoral.
Ah, t'as pas régulé, c'est pour ça que ça marche pas.
Putain, l'autre a nous fait son Apple en fait. C'est pas le produit qui est de la merde, c'est toi qui ne sais pas s'en servir.
Bah c'est ça.
Ça a pas eu le temps de réguler en fait.
Vous remarquerez que le flacon est presque vide. Je me suis un peu acharnée quand même.
Oui, c'est vrai.
Et c'est parce que du coup j'en mettais plus.
Ah bah oui. Mais t'as pris quoi, fraîcheur? Ah,
un jour, j'ai fait
trois
jours.
T'as pris quoi? Mais c'est ton truc,
fraîcheur campagnarde.
Fraîcheur alpine.
Bon, voilà.
Brise marine.
Brise marine, pain des Vosges.
Senteur raclette.
Rillette plutôt, c'était rillette.
Voilà, donc mon test n'était pas franchement concluant. Bon. Je vais m'acharner, je vais trouver autre chose.
On a hâte de connaître ton prochain test.
Oui, peut-être que t'en as mis trop finalement.
Peut-être.
Et ça fait un
trop
effet
inverse. Trop de déo, tu le déo.
Voilà, c'est ça. Peut-être. Ça s'annule en fait. Tu sais, c'est
exactement.
Plus par moins par moins.
J'ai cherché mon stick large, je sais plus c'est lequel, mais j'en ai.
Ou alors il a détecté que t'avais du Sanex avant. Et
exactement.
Il est jaloux.
Il marche pas.
À tous les coups. Putain.
C'est peut-être un sale con, le Narta.
Tu l'as pris en photo, Marius, j'espère, pour mettre sur Google Plus, parce que c'est intéressant.
Un petit procès, c'est clair.
De toute façon, à part moi, je crois qu'il y a personne qui regarde les photos. Et toi, peut-être?
Non, moi, je les regarde.
Toi, tu les regardes? Ah, t'es sur Google Plus. Eh ben, merci Starlet, je pense qu'avec ça, si on n'ouvre pas des partenariats qui vont nous permettre de
c'était
manger.
C'était bien, non?
Bah c'est oui, c'était très bien.
Mmh. Bah, peut-être pour le festival à l'occasion. Oui. Pour les gens, tu sais, pour pas qu'ils aient trop peur, s'ils ont peur
surtout
de stresser.
Voilà, hop, les Exil.
Eh bien, on va passer à la dernière rubrique de l'émission.
C'était vraiment très intéressant.
Fort à propos.
Ringo, j'ai arrêté d'en mettre par contre. Je suis repassé au Sanex.
Elles sont meilleures maintenant. Eh bien, on va passer donc à nos coups de cœur ou aux coups de gueule, je ne sais pas. J'ai même pas eu le temps de regarder un petit peu ce que chacun voulait présenter. Donc, ça va être la surprise. Christophe, jingle. Oui, alors, par qui commence-t-on?
Par le couillon qui demande.
Bon, je peux commencer. Pourquoi pas? Allez, tiens, ça a changé. Allons-y. Donc, moi, je voulais vous parler d'un groupe qui s'appelle Royal Blood, qui est un duo composé de Mike Kerr et Ben Thatcher, qui est formé en Angleterre il y a... Laisse un petit peu, parce que c'est un petit peu fort.
Ah non!
Et donc, ce ne sont que deux personnes.
Baisse ta voix, toi.
De toute façon, je vais le laisser parce que je n'ai pas parlé très longtemps. Moi, je ne les ai pas découverts. Ils passent bientôt au 106. Je vais y aller, les voir en live. J'ai juste découvert l'album suite à leur passage à Rock en Seine où je n'ai entendu que des propos dithyrambiques. Alors, je sais que ça ne parle pas forcément à tout le monde à qui j'ai fait écouter. Mais alors, moi, ça passe quasiment une fois par jour chez moi sans aucun problème. Et surtout que c'est qu'une basse et une batterie. Et la basse, elle a un son de fou. Voilà, on croirait une guitare. Enfin, il fait des trucs de malade avec son instrument. Je trouve ça génial. Et c'est un côté un petit peu avec des riffs à la Rage Against the Machine, avec un son un peu lourd à la Stoner, Queens of the Stone Age. Même si la voix ne correspond pas. Hop. Et ben voilà. J'ai fini. C'était un peu court, mais je vous incite à aller écouter. Moi, j'irai les voir au 106. J'espère.
Moi, j'aime bien.
Prochainement.
Moi, je veux bien écouter aussi.
106, le 17 octobre, vendredi prochain, Didouille au 106, non, en novembre, pardon, je te tiens au courant.
Ouais, tu me dis quoi?
Voilà, c'était tout pour moi, j'ai passé la parole à mon voisin de gauche. Attends, qu'est-ce que tu présentes, toi? Il y a de la musique ou pas?
Bah oui, il y a de la musique.
Alors, attends, oui, je sais, ok, c'est bon, c'est parti.
Cyril Mokayesh, partir. Ancien champion de France junior de tennis, Cyril Mokayesh s'est reconverti dans la musique et devient chanteur du groupe de rock Mokayesh en 2007. Il décide ensuite de prendre son envol et de se lancer dans une carrière solo. En 2011, il sort son premier album, Rouge et des Passions, très bien accueilli par la critique. Et 3 ans plus tard, il sort son deuxième album, intitulé L'amour qui s'invente. Il est sorti en mai dernier et il parle de sentiments et de tumultes amoureux. Il est en tournée depuis le début du mois d'octobre et jusqu'en novembre. Il sera le 16 janvier 2015 à Sotteville-lès-Rouen au Trianon. J'ai réussi à avoir une petite invite.
Oh cool.
Yeah.
T'as le bras long, toi.
Et le titre Partir qui passe actuellement est mon coup de cœur. Probablement pour cette phrase. Partir, quelle jolie danse. pour séduire une autre chance.
C'est beau.
Bon, bah alors.
Bah écoute, on le mettra aussi sur la playlist, les gens pourront l'écouter en intégralité. Donc, Mokayesh, M-O-K-A-I-E-S-H. Voilà, c'est pas si simple à trouver, un peu galéré, on va le trouver sur Spotify. Donc, je vous préfère vous le dire, je l'écrirai sur le billet. Mais merci Christophe pour ce message tout en pudeur et tout en sensualité.
Je crois qu'il se fout de ta gueule là. Je crois qu'il se fout de ta gueule.
Non, en plus, je trouve que c'est
un côté sympathique.
Non, mais j'ai l'habitude.
C'est surtout le contraste entre les deux, quoi. Les deux propositions.
Mais c'est pour ça que je trouvais que c'était sympa de passer Royal Blood à Mokayesh. C'est l'entrepôt. Voilà. On a chacun notre sensibilité. On n'a pas la même avec Christophe sur la musique souvent. Et bah, c'est encore
un exemple.
Une preuve. Eh bien,
la différence, c'est que moi, ce que j'écoute, c'est beau.
Tu crois peut-être que je vais relever ça. Oh, là, il me prend pour les fils. Il est bête ou quoi?
On se croirait dans une cour de récréation.
Exactement.
Le premier qui dit qui
allez.
Est.
Tiens, allez, Starlet, puisque tu y es. Tiens.
Alors, moi, je voulais vous parler de Jeannadine. En fait, on en avait déjà parlé pendant notre épisode spécial Rock en scène. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette artiste. Elle nous a été vendue un peu comme une jazzwoman, mais bon, bien qu'il y ait des sonorités de jazz sur certains morceaux, il y a aussi et surtout une ambiance électro, étoffée par sa voix chaude, tantôt douce et tantôt rauque. J'ai été complètement séduite par ce style bien à part. Elle sort un album en octobre. Là pour l'instant j'ai cherché un petit peu sur Deezer et sur Spotify, il n'y a rien du tout, je suis très très triste, il y a des featuring en fait, mais il n'y a pas ce morceau là par exemple que j'adore et que j'aimerais avoir.
C'est pas la formation Scotta, c'est pas la formation voilà. Qu'elle a proposée au rap.
Donc vivement là, ça va bientôt sortir, j'attends vraiment avec impatience, je trouvais ça génial. Donc voilà.
Et donc l'illustration sonore, c'était une prise live directement de Didouille lors de Rock en scène. Donc ça donne un petit peu le.
Donc vous ne pourrez pas la retrouver sur la playlist de.
Ça, ça ne sera pas sur la playlist par contre. Sur l'iPhone de Didouille, si
dès que j'aurai acheté l'album, là on la mettra.
Vous allez sur mon compte Facebook et je peux vous le procurer.
Elle proposera.
On peut la remettre sur fichier MP3. Hein.
Elle est connue
dès
pour
que j'achète
sa...
l'album, on le met.
Elle est connue vraiment pour sa formation de jazz. Elle était dans un groupe de jazz et.
Il n'y a rien de sorti sur elle.
Si. Avant cette formation-là, parce qu'elle est accompagnée d'une batteuse.
Ouais.
Batteuse percussionniste, yep. Elle se fait accompagner aussi avec des samples. Mais elle avait une formation avant avec un monsieur. Et là, ça ressemblerait plus à ce qu'on a entendu à Rock en scène, mais on n'a pas encore de. Et je lui ai envoyé, enfin, en même temps, elle a peut-être eu peur, j'avais envoyé un message de ma part sur.
Je vais te tuer, salope! Bizarrement, non, t'as pas répondu.
Sur Facebook et elle m'a pas répondu.
Alors,
non,
je voulais savoir. Je lui ai envoyé un message et elle m'a répondu en fait.
C'est ça, en fait. Ah oui, d'accord.
Merde, elle m'a dit quoi?
Son ouais, album sortait en.
Est-ce que son album sortait en octobre? Jeannadine m'a répondu.
Mais en tout cas, je pense que Starlet, elle en reparlera si elle achète l'album. Ce sera peut-être le coup de cœur ou peut-être pas. Peut-être
oh, si, c'est ce qu'on a entendu, franchement, c'était super.
Réécoutez l'épisode de Rock en scène et les filles nous en avaient fait un retour assez dithyrambique. Didouille, tiens, puisque tu parlais, c'est à ton tour, c'est à toi, c'est parti.
Oui, moi c'était pour un retour sur Olysse. J'en avais parlé à un épisode précédent. Et nous sommes allés la voir en concert, puisqu'elle était au 106 fin septembre. Et on y est allé avec Mister Lulu. Et franchement, c'était un super concert. Elle a une énergie hallucinante.
Une jolie culotte rouge.
Un joli short rouge, mais alors elle n'arrête pas, elle bouge en tous les sens et tout. Et c'était efficace, dynamique, super frais. Et vous avez eu une dédicace de Benjamin Adam et de Steve Baker. Et ben moi j'ai la mienne Tolicis et j'ai
sur
même une
t-shirt.
Photo aussi avec elle. Et c'est une personne adorable, super sympa. Et franchement, c'est une présence superbe sur scène. Faut aller la voir. Voilà.
parfait ça. Ben merci Didouille, hein, vraiment t'es à fond. On sait que t'es à fond avec avec Ulysses. Non mais Ulysses, ça fait quand même quelques temps. Tu nous en as déjà parlé, je crois, il y a un an.
Oui.
Je sais plus à quelle occasion.
Ah non non, mais en même temps j'écoute d'autres choses. Si tu veux, regarde, je vais aller avec Nico écouter le groupe qui va. Ça et j'adore. Ouais.
Tiens, tu vas voir Chaka Punk ou pas la semaine prochaine?
Non, je vais pas voir Chaka Punk.
D'accord. Non, mais c'est juste comme ça.
Mais je sais que j'aurais pu aller voir.
Vous allez vous calmer tous les deux là.
Le principe, je vous le rappelle, c'est 60 minutes chrono.
60 secondes.
Lapsus révélateur.
Ouais, ouais, coucher, en fait.
Ah non, non mais non, mais oh, on est capable de rester des heures autour de cette table.
Eh bien, maintenant, je vais laisser donc la parole à Mr. Lulu.
Oh, it's me.
Pour son coup de cœur. Christophe, es-tu prêt? Jingle, c'est parti.
Oui, moi je veux parler, mon coup de cœur sur ce coup-ci, c'est Flippin' Hot, groupe rouennais de heavy blues. Que j'ai vu récemment notamment avec Starlet aux trois pièces et Christophe à Rouen. Et un groupe qui dégage une très très grosse énergie en live, franchement, avec une chanteuse Marina qui est
très charismatique,
impressionnante de présence sur scène. Et ils viennent de sortir en fait un EP là qui s'appelle Black Wizard, qui est donc le morceau qu'on écoute là actuellement. Et franchement, ça assure à mort quoi. Donc voilà, on finit d'écouter, je crois être près de mes 60 secondes là, et c'est tout bien.
Un petit peu, mais on peut écouter la fin.
On va sûrement jouer avec eux en mars l'année prochaine, c'est ça.
Et Marina est super belle.
Christophe, il n'en peut plus là.
Et il veut une fan, lui.
Mais elle est jeune.
Non, mais en plus, ils sont très sympathiques, ces petits jeunes-là.
Ah, ouais.
Donc, Flippin' Hot, on mettra le
lien, ouais.
Le lien vers, au moins leur page Facebook ou quelque chose comme ça. Mais ils ont une actualité plutôt sympathique.
Vraiment à voir sur scène.
Hein, et ils sont aussi sympathiques, sont aussi bien sympathiques dans la vie que sur scène.
Voilà. Et c'est en voix grave.
Mais dis donc, c'est que de la musique aujourd'hui.
La remarque que je me faisais, c'est étonnant.
Regardez, Mister Marius a aussi quelque chose de musical.
Non, mais comment se fait-il?
Mais que ça dire? Attention, Mister Marius, attends, parce que toi, tu nous as dit.
Spécial Mireille Mathieu, non?
Non.
Paris brûle-t-il?
Attention, c'est Christophe, parti.
Donc voilà, moi c'est un petit retour sur King of Leon que je viens de découvrir sur les amis sur les conseils d'une amie, Nadège, que je fais un petit clin d'œil donc. Le groupe est originaire de Nashville, il est constitué de trois frères et d'un cousin, les Followill. Et puis c'est un groupe qui en France est pas spécialement connu mais qui cartonne aux États-Unis et en Angleterre. L'album date de 2013, là ce qu'on écoute c'est l'album Mechanical Bull, hein, c'est bon ça?
La boule mécanique, j'adore.
Et puis c'est du rock garage, c'est bien speed, moi j'écris beaucoup là-dessus, en fait ça m'aide énormément à écrire, donc...
T'écris quoi? Des cartes postales?
Bah, non, j'écris ce que je fais dans l'entrepote, ça m'aide beaucoup.
D'accord.
Ça me colle la patate.
Tu nous feras lire un jour ou tu nous feras écouter?
C'est dommage de nous faire écouter tes brouillons en fait.
Plutôt que de nous faire écouter tes merdes.
Je peux faire mes 60 secondes ou...
Ah, ça y est. Merci Marius, c'était très bien.
Sympa, merci. Donc, mais tout est bon.
T'as le cochon.
Tout est bon. Tous les albums sont bons.
Là, c'était le morceau Temple de Kings of Leon.
Ouais, c'est et ça Et le titre, aide-moi, c'est quoi alors? Mechanical Bull, c'est ça?
Mechanical Bull.
Je sais pas, moi j'ai que le titre du morceau, mais.
Non, mais.
Là, c'est écrit Mechanical Bull. Oui.
Mechanical Bull.
Ok.
Donc c'est excellent.
Eh ben écoute, moi je connais que de nom, mais.
Moi aussi.
C'est vachement bien.
Et puis, Alex, aurais-tu quelque chose à présenter, toi, en 60 secondes? Alors on te prend un peu au dépourvu, comme ça, hein?
Non, pas spécialement, en fait.
Pas spécialement?
Non.
Bon, c'est pas grave.
J'y réfléchis en plus depuis tout à l'heure. Et
non, mais en fait, il connaît l'émission, il sait qu'il avait un truc à présenter.
Ah, oui. Il a pas bossé, c'est tout.
C'est vrai que, ouais, j'ai pas.
On va pas te briser comme on a brisé Marius. C'est... Hein. Marius, c'est un peu notre jouet, hein, nous, hein. C'est un peu notre.
Ah, le pauvre.
Notre toy.
C'est notre toy, quoi.
Sinon, je vous présente Marius en 60 secondes. Vous pouvez jouer avec.
Ah, surtout, brisez-le, c'est ce qui est
attention,
marrant.
Ne pas jeter contre les murs, risque de casse.
Moi, je voudrais bien faire un test. Donner mon déodorant à Didouille, qu'elle l'essaye avant son body pump et qu'elle me dise si elle tient la séance.
Ça marche.
Eh ben, voilà. Ça m'étonnerait. Hein,
il reste plus grand chose, mais.
Peut-être Jean-Robert, il y a peut-être un truc à dire. Il a un coup de cœur, Jean-Robert.
Jean-Robert.
Un coup de cœur, Jean-Robert. Ou un coup de gueule. Jean-Robert, on ne vous connaît pas finalement. Ouais, 60 secondes,
moi, Jean-Robert, j'ai l'impression
là.
Que ça va être un coup de gueule. Hein.
Il veut l'ouvrir, Jean-Robert.
Alors, Jean-Robert, on nous
un coup de gueule, allez, ça bien. On
quoi qu'il en soit, mais même si vous n'avez rien préparé, vous allez parler et tant pis pour vous s'il n'y a rien à dire. C'est parti.
Allume ton micro,
Il a éteint ton micro.
Non, je l'ai allumé.
Ah.
Non, je pour ma part, je suis ravi de vous avoir entendu. Hein.
C'est un peu ton coup de cœur, alors, Jean-Robert.
Mon coup de cœur, c'est l'Entrepode. Hein, puisque l'Entrepode, ça porte bonheur. J'ai marché dedans longuement aujourd'hui.
Il est long, cet épisode.
Non, si je puis être un peu sérieux pour une fois, cet épisode était fort plaisant, ma foi, avec un invité charmant. Chevelu, certes, mais charmant.
Il peut se le permettre, c'est bon.
Un peu l'anti-Christophe.
C'est l'anti-Christophe.
L'anti-Christ, tout simplement.
Mais c'était une émission passionnante avec un test sur le Narta que je suis prêt à moi-même à assumer.
Peut-être que ça sera JR qui nous fera la contre-expertise la prochaine fois.
Oui.
Il a tenu 96 jours.
72 jours.
Eh bien, merci, puisque cette minute était finie. Donc, j'ai pas trop su si c'était un coup de cœur, un coup de gueule ou une intervention.
Mais c'était gentil, j'ai senti quand même un petit peu.
Non, mais c'était pour rajouter un petit peu parce que.
Sauf à moi.
Sauf à.
Comme d'hab.
Ça va, Droupi ?
Pour une fois, attends, ça aurait pu être.
Moi, j'en ai marre des
cheveux.
On le voit.
Du coup, tu les dégages, c'est vraiment des cons.
Les
cheveux, c'est vraiment des cons.
Je m'arrache les cheveux tous les jours.
Oui, mais en même temps, si Alex devait faire une résine de toi, c'est
ce
vachement
plus
simple pour lui quand il va te polir.
C'est sûr.
Quand il va te reluire.
Il est en train de se dire, qu'est-ce que c'est que ça part en vrille, cette histoire.
Ouais. En tout cas, non, mais en même temps, c'est vrai, hein, s'il fallait faire ne serait-ce que le moulage, c'est beaucoup plus facile s'il n'y a pas de cheveux.
Bah, que sur ta tête.
Ah oui, non, sur moi, c'est super chiant. Quoi. Surtout tout seul, comment tu galères, quoi. Mais c'est un truc de ouf.
T'imagines, je plonfe. En tout cas, l'avantage c'est qu'on voit plus ton bronzage, cool. Quoi, Christophe. C'est... Alors que moi, moins, tu vois.
L'hiver surtout.
Et bien sûr, c'est sur ces belles paroles, sur ces considérations cool. Capillaires et cosmétiques, nous allons donc conclure. Vous retrouverez sur le blog l'ensemble, enfin la majorité de tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, hein, les liens vers ce qu'Alex a pu nous présenter, les diverses photos de Marius, sinon vous pouvez aller sur Google Plus, mais comme personne n'y va, je les mettrai ailleurs.
Marius Chénière, Google Plus.
Et puis 350 photos.
Et puis je me répète, mais n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles ou des petits pouces sur
Google
sur iTunes.
Mettez-nous des petits pouces.
C'est vrai qu'elle était mal formulée, ma phrase. Un petit pouce sur Podcast France, voilà.
Non, moi ça me plaisait bien.
Et puis après, tu te débrouilles toute seule avec tes fans. Hein. Je laisse t'occuper.
Mais je te signais que sur le lien de l'Entrepode, il n'y a pas mon.
Ton pouce bah... L'endroit pour insérer un pouce.
Non, j'ai pas mis mon adresse.
Le pouce, c'est le doigt le plus court. Même
on mettra, Didouille. On mettra le truc. Et puis, c'est l'occasion aussi d'évoquer notre participation au Golden Blog Award de 2014. Je sais pas. On est dans la catégorie podcast.
C'est jusqu'à quand?
Vous pouvez voter pour nous chaque jour jusqu'au 23 octobre.
Je vote toujours pas.
Et après le 23 octobre, c'est la place au vote du jury. Donc, mais cela étant, on vote. On se dit peut-être qu'on pourrait aller faire un petit tour à l'Hôtel de Ville de Paris. Hein. C'est l'occasion de rencontrer peut-être d'autres podcasteurs comme
moi. Manger des petits foies.
C'est surtout ça, voilà. Mais bon, voilà, c'est toujours.
Orange.
Comme dirait quelqu'un que je connais, ça fait toujours économiser un repas chaud. Je t'ai coupé l'air sous le pied.
C'est reconnu.
Et pour peu qu'il y ait des doggy bags.
Et puis, on remercie quand même Alex d'être venu.
Ouais, merci Alex.
Se joindre
merci
à nous aujourd'hui. À
très intéressant.
Grand merci à lui, ouais.
Et je crois que Ludo, ça fait longtemps, j'avais perdu ce rituel, j'avais oublié. Ludo, Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part en particulier
tout
sur Internet?
Tout à fait. J'apprivoise mon reflux gastrique.com qui est mon nouvelle adresse, en fait.
Et alors, de quoi cela nous parle-t-il?
Oh bah, tu sais, faut apprendre à vivre avec une haleine de taureau.
D'accord. Bah, c'est tout un programme.
Mais en fait, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ne me réinvitez pas, en fait, parce que là, franchement...
Ludo, je sais pas si t'as acheté tous les noms de domaine que tu cites, mais ça mérite d'aller jeter un petit coup d'œil, je pense.
Il a un podcast formidable qui s'appelle le Gastropod.
Et puis bah on va donc se quitter. Et puis bah si vous êtes encore courageux, si vous avez envie de découvrir la dernière perle que Ludo nous a dégotée,
je me casse.
Et bah non, restez encore.
Eh bien restez après le générique de fin.
Casque sur la tête.
C'est bon, je dirais pas c'est d'anthologie, c'est particulier. J'avais dit particulier, je crois, en intro. Je garderai ce terme-là, particulier. Vous nous faites part de vos retours sur ce sujet-là. C'est peut-être une artiste qui mérite d'être connue. Enfin, on vous
avec
laisse juger.
Une véritable ambition dans le propos, mais j'en parlerai juste dans quelques minutes.
Et puis, on vous dit au prochain épisode. On sait pas quand il aura lieu, mais.
Youyou. Salut tout le monde.
Bonne écoute. À bientôt. Salut.
À bientôt. Et oui, de retour pour cette séquence post-générique, séquence au cours de laquelle j'aimerais mettre en lumière une chanteuse, Daphniel, qui enfin, propose un texte avec une vraie ambition. Et non seulement un texte doté d'une vraie ambition, mais en plus, incarné de façon, je dirais, magistrale. Cette chanson s'appelle « America ». Et vous allez voir, c'est Papy Kylian Don.
Même si dans la...